Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, comment ça va bien? Ah, connexion au stream discretos depuis le bureau, ni vu ni connu. Tranquille, tranquille. Ne le dites pas à votre patron. Ou alors dites-lui, vous aurez une augmentation. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Comment ça va? Comment ça va bien? Est-ce que vous passez une bonne après-midi, une bonne journée? Est-ce que c'est pas trop la grisaille? Ici, il pleut, il fait gris. Comme un jeudi, ouais. Ouais, il pleut, c'est chiant. Ça me passe le sel de mon interview ce soir annulé. Ah ouais, bah très bien, écoute. J'arrive pile sur le bonjour. Mais oui, on est là, hein. J'attends le plombier depuis 10 h. Ah, il t'a donné une fourchette? Je passerai entre 10 h et 22 h. En fait, il passera demain. J'ai loupé ton intervention sur France Info, je suis deg. Oh, c'était pas. Je suis passé pour un quart d'heure, quoi. Mais c'était bien. Enfin, je viens de finir de lire les finances publiques pour les IRA, c'est plutôt simple. Alors, la LOLF, tu la sens comment, la LOLF? Il fait moche où j'habite près de Paris, où on a le même temps. Ouais, non, je suis à Paris, il fait moche. Littéralement en train de taffer mon droit constitutionnel en écoutant ton live. Ah, c'est bien ça. T'es sur quoi? C'est quoi le chapitre? Tu retournes dans 2 semaines. Je sais pas si je serai invité déjà. Tiens, d'ailleurs, la journaliste qui présentait l'émission m'a envoyé un texto pour me remercier. Il faut que je lui réponde. J'y pense. Hop là, fête des sciences, des écoliers, des collégiens et des lycéens un peu partout sur le campus, c'est la foire. Ah, c'est cool ça, fête de la science. C'est un vrai big deal, l'amendement sur les taxes des super profits qui passe? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. La LOLF de cette année semblerait gratinée. Bon, avis à ceux qui demandent. Les deux dernières VOD arrivent bientôt sur YouTube. Le retard, c'est la faute à l'INA. Merci, Pemf. Merci, Pemf. Merci beaucoup. Salut, on va discuter tout ce qui se passe. Pas eu le temps de suivre la rentrée politique. Ouais. Alors là, ça c'est un, là, c'est, là, je lance un stream extrêmement chill. J'ai rien prévu de particulier. J'ai juste envie de passer du temps avec vous et de papoter et discuter. J'ai pas le moral. Je suis fatigué. J'avais pas envie. J'ai pas envie de bosser. Donc du coup, je suis non, mais j'ai envie de discuter avec les gens. Viens, on lance un stream plutôt que de ruminer tout seul là. Allez là, on lance un stream et puis on verra bien. Advienne que pourra. Donc voilà quoi. Pourquoi pas le moral? Je suis fatigué depuis la fin de la semaine dernière. Là, j'ai des problèmes de sommeil. Je suis claqué. Oh. Du coup, je passe des heures dans mon lit à regarder des vidéos de Feldup. C'est trop bien. Je te remonte le moral. Parlons de la publication du DSA DMA au journal officiel. Oh non. Je crois que c'est octobre. Ouais, non, j'ai je si ça se trouve, en fait, c'est possible que je sois sensible à la météo. Hein. C'est possible que je sois sensible à la météo. Hein. J'ai l'impression que tous les ans, là, la baisse de la luminosité, la grisaille, l'automne, ça me déprime. Je dis ça, mais l'été, ça me reprime pas non plus, donc bon. Tu te remontes le moral en regardant Feldup, courage. Ouais. Et à quand une émote backseat pour mettre plein de backseat dans le chat des streamers en jeu vidéo? Non, je n'encourage pas le spam d'émotes sur les chats des autres. Les vidéos de Feldup, c'est le top pour les insomnies. Mais grave, grave, c'est tellement bien ce qu'il fait. Feldup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vidéaste français spécialiste du monde de l'horreur sur Internet. Il fait pas des analyses de films ou de trucs comme ça, il fait des analyses de phénomènes numériques, de la culture web, mais surtout du côté de l'horreur, les ARG, par exemple. Il a beaucoup fait ça, il a un format qui s'appelle Findings, maintenant il fait des icebergs aussi, et il fait un travail exceptionnel. Il est très très bon, il est vachement jeune en plus, et il explique très bien, il a une voix superposée. Le montage est top, l'écriture est super chouette, sa voix est superbe. Enfin, c'est vraiment un petit bijou de YouTube. Voilà. Pourquoi des Prime alors qu'on peut Amazon Prime? Très bon, très bon. Je la valide. Je la valide. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, ouais, non, quelqu'un qui me demandait l'amendement là qui a été adopté sur la taxation des dividendes exceptionnels et tout. En fait, c'est la raison pour laquelle je dis que ça sert pas à grand-chose, c'est qu'en fait, si la loi de finances finit par un 49-3, le gouvernement soumet au 49-3 le texte qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut garder les amendements qu'il souhaite. Mais c'est le gouvernement qui décide. Donc le gouvernement fera le tri entre les amendements qu'il veut garder et ceux qu'il ne veut pas garder. Donc celui-là, il sautera. Feldup, j'ai essayé le soir, j'ai dormi 3 heures.
Ah ouais.
Feldup. Tu crois à la généralisation de la grève? J'en sais rien, je sais pas. C'est toujours la question, les salariés du privé, hein. C'est les salariés du privé qui font la différence, comme dans tous les mouvements de grève. Discussion sur les crédits d'impôt dans les territoires ultramarins pour le PLF. Je suis ça depuis ce matin, la politique m'a matrixé, tu auras ma mort. Ouais, c'est intéressant. Les crédits d'impôt dans les territoires ultramarins. Ouais, les niches fiscales. Le 49-3 est techniquement pas possible. Ah si. Ah si, 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 si. C'est prévu une saison 2 de Baxit, ouais. Mais pas avant plusieurs semaines. On sent une rupture entre le gouvernement et sa majorité vu le résultat du vote de l'amendement. Ouais, je sais pas si on peut parler de rupture, mais c'est un amendement du MoDem, effectivement, qui a été adopté, c'est pas rien. Merci Chèvre-Miel pour ton sub, merci beaucoup. Est-ce que tu peux expliciter le vote sur les deux médecins pour la téléconsultation? Ça non plus, j'ai pas très bien compris. Je crois que c'est un amendement qui a été adopté au PLFSS qui rend obligatoire pour les téléconsultations d'avoir un personnel de santé à côté du patient pendant la consultation, je crois. Que les gens puissent pas faire de téléconsultation seuls chez eux, qui est forcément un professionnel qui les accompagne. Alors je sais pas dans quel cas, dans quelle limite, et tout, je sais pas, j'ai pas suivi, mais je crois que c'est ça. Il faut une majorité pour le 49-3 ou j'ai rien compris. Effectivement, t'as pas compris. C'est justement le principe du 49-3. C'est que ça te permet de faire passer un texte, faute de majorité, en mettant au défi les oppositions de créer eux-mêmes une majorité. On va dire ça comme ça. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, si tu veux. Du coup, dans les déserts médicaux, c'est pas contre-productif. C'est le grand débat depuis longtemps, hein, sur la téléconsultation. Téléconsultation, c'est très bien pour plein de choses. Mais ça a des limites, notamment sur l'accès aux soins pour des personnes éloignées des soins, et il ne faut pas que ça empêche le gouvernement de lutter contre les déserts médicaux. Ce serait trop facile. Où est-ce qu'on peut revoir ton passage à France Info hier? Bah écoutez, on peut essayer de le regarder si vous voulez. France Info. Les replays à ne pas manquer. France Info Soir. Non, c'était pas France Info Soir, c'était avant. Je sais pas quelle émission c'était. Vidéo. Lutter contre les déserts médicaux alors que l'État veut même pas mettre les professions libérales prioritaires, c'est abusé. Ma femme est médecin généraliste, elle ne peut plus faire de visite à domicile. Prioritaire pourquoi? Pour prendre du carburant? Appelles-tu à la grève? Ah non, j'appelle à rien du tout, moi. Faites ce que vous voulez. Discutons-en. J'arrive pas à voir où c'est le replay d'hier soir, là. C'est comment? Voilà, on était en plateau. événement. C'était le nom de l'émission. Politique. Décryptage. Guerre en Ukraine. Ripley, retrouver l'interview d'Emmanuel Macron, invité de l'émission politique sur France 2. Ok, mais est-ce qu'ils vont jusqu'au débrief? Non, ils vont pas jusqu'au débrief. Arf. Penses-tu qu'une motion de censure pourrait passer à l'approche du 49-3? J'ai pas de boule de cristal, mais je pense que c'est fort peu probable. C'est fort peu probable que les Républicains votent une motion de censure des Insoumis. Et c'est fort peu probable que les écologistes, les socialistes et les communistes votent une motion de censure du Rassemblement National. Merci Nexus. C'était à quelle heure ton passage? C'était à 23h. C'était à 22h30, pardon. Je suis en train de chercher... ça c'est le replay de Macron et moi j'étais en plateau après. Mais du coup, est-ce qu'ils ont mis le plateau d'après quelque part? Moi j'étais sur le plateau débrief de l'émission de Macron. Oui, t'as raison, plutôt 22h15, oui c'est vrai. Je sais pas, si je vais sur vidéo, visiblement il y a que des actus, je vois pas de plateau. Ça doit pas être ça. Si je vais dans politique, les sujets du moment. Non. Tu peux pas chercher par tranche horaire. Non. Non, 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 non. Tu peux pas chercher par tranche horaire. Donc c'était le 12 octobre. Ça c'est que des sujets. On a décrypté cette affirmation. Interview sur l'actualité internationale. Guerre en Ukraine, pénurie carburant. Ce qu'il faut retenir. Ça doit être juste un best-of. Ouais, non, c'est juste un article écrit. Je sais pas, je trouve pas. Si sur le site de France TV dans programme et en regardant celui d'hier. Ah ouais? France TV. Ben non, ça va être par chaîne. Moi j'étais sur France Info, j'étais pas sur France 2, attention. Hein. Donc je vais sur Info. C'était pas le 23h. C'était pas 8h30. Le fil Info. Toutes les vidéos, bah non, pareil. L'événement avec Emmanuel Macron. Et moi, je veux pas juste... Ah, tais-toi. Ah si, attends, si. Non. Ça, c'est le replay de France 2. Tu vois, là, ils font un plateau de débrief sur France 2. Moi, j'étais sur le plateau France Info, pas France 2. Voir le programme TV... Ah, hier 12 octobre. Ah, t'as peut-être raison. France Info. Le JT de 7h, le JT de 7h, la matinale. Ah ouais, t'as raison, on va peut-être y arriver. Les informer, l'info c'est clair. Le fil info 10h30, donc là on est encore le matin. Fil info 14h, 17h, 19h. L'événement, France Info soir. Ah bah ça devait être ça. Je clique, mais ça marche pas. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Sabotage russe, je suis sûr. Je suis sûr que c'est un sabotage russe. Dessous, bah non, dessous, c'est soir 3. Ah non, je vais pas me connecter.
Et à la une de l'actualité ce
Ah, c'est
soir.
ce qu'on appelle un faux départ. Et non, la réponse est non. Ça, c'est soir 3. C'est l'émission de 23h. Justement, c'était après notre émission à nous. Donc non. Donc non, donc non, donc non. C'est pas ça. France Info. Ça me paraît compromis. Bah voilà, bah non. Donc 22h, si je clique sur l'événement. Est-ce qu'il va m'envoyer vers l'événement ou le débrief? Ah non, tu vois, ils remettent le débrief de France 2. Moi, je veux pas le débrief de France 2, je veux le débrief de France Info. J'ai cliqué sur France Info, je veux France Info!
Claire?
Merde! Ici, on est Team France Info, on n'est pas Team France 2. Sur YouTube, sinon, il y a le live France Info, tu peux remonter le différé. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Quelle ironie. On doit aller chez Google pour regarder France Info.
Cet hommage, c'est pour lancer un appel à la
Ah putain, mais t'as
République,
raison en
aux
plus.
automobilistes de faire attention.
Parce qu'en plus, ça remonte loin. C'était il y a combien d'heures? Il est 16h. Putain, c'était bientôt il y a 24 heures. Ah non, on va pas y arriver là. On va pas y arriver. Hein. Comment on récupère le direct d'avant? Si je fais vidéo. Il y a Saloké Samé. Il y a Victor Clémentovitch. Il y a que des belles personnes. Mais il n'y a pas. Playlist. Eh ben, je crois que ça n'existera pas sur Internet. C'est un passage éclair à la télévision française que vous ne pourrez pas retrouver. Nulle part. Jamais. Si je cherche Macron, on a une vidéo de Clément Vitorovitch il y a 5 mois. J'aime bien Clément, hein, c'est pas le sujet, mais si on tape le nom de l'émission, l'événement, non plus. Faut aller sur le site de France 2. Mais non! Je veux pas voir le replay de France 2. Je veux voir le replay de France Info. Fallait enregistrer sur cassette avec le magnétoscope. J'ai vu la rediff hier soir, c'était vraiment court. Oui, non, je suis passé que pour un quart d'heure. C'est le Jean Massier, il vient d'Internet, on va pas le laisser en plateau pendant une heure non plus. Samuel Etienne n'a pas restream sur sa chaîne. Ah, si, mais il a restream que l'interview. Moi, je veux voir le plateau débrief qu'on a fait après l'interview de Macron. Qu'est-ce qui diffère entre une motion de censure d'un camp et plutôt que d'un autre? Une motion de censure, c'est un texte politique qui explique les raisons de la censure du gouvernement. Les députés qui votent la censure, ils votent pas simplement pour dire qu'ils aiment pas le gouvernement, ils votent pour dire qu'ils sont d'accord avec les raisons pour lesquelles le gouvernement est critiqué. Or, tous les partis sont pas d'accord sur les raisons pour lesquelles il faut critiquer le gouvernement. Le Rassemblement national, ils vont déposer une motion de censure en disant que le gouvernement ne lutte pas assez contre l'islamisme et l'immigration. Et ça, les députés de gauche vont pas voter. Sauf la France insoumise qui a dit qu'ils le voteraient. Les Républicains, ils vont déposer une motion de censure, ce qui n'est pas sûr, hein, dans laquelle ils vont dire que le gouvernement ne maîtrise pas assez la dette, l'endettement, le déficit, et il faut réduire les dépenses de l'État et supprimer des postes de fonctionnaires. Ça, la gauche, ils vont pas voter ça. Les Insoumis, ils vont déposer une motion de censure disant que le gouvernement ne taxe pas suffisamment les entreprises et les super-profits. Les Républicains, ils vont pas voter ça. Le résultat est le même. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pour ça que je vous dis que c'est un texte politique. J'arrive pas à retrouver la VOD de ton passage sur France 2. Ben non, moi non plus. D'ailleurs, j'étais pas sur France 2, j'étais sur France Info. Est-ce qu'on peut faire plusieurs motions de censure en même temps? Ça s'additionne. Non, il peut y avoir plusieurs motions de censure qui sont déposées, mais elles sont votées séparément. Donc les groupes de gauche vont voter les motions de censure de la gauche, les groupes de droite vont voter les motions de censure de la droite. Il y a quelques groupes qui ont annoncé qu'ils voteraient les mesures du camp d'en face, mais pas tous. Motion de censure, ça s'appelle censure pourquoi? C'est le nom juridique constitutionnel de la censure par un gouvernement, par un parlement d'un gouvernement. On appelle ça la censure d'un gouvernement. Ça veut dire le licenciement, ça veut dire le renvoi. La défiance, on peut appeler ça aussi. Ça donnerait quoi une motion de censure consensuelle? Je sais pas. Est-ce qu'un président peut démissionner? Ouais, De Gaulle l'a fait. Les votes des motions de censure sont en parallèle ou bien on attend le résultat de l'une pour avoir voté une autre? Je comprends pas, on les vote les unes après les autres? Qui a annoncé voter les motions des camps d'en face? La France Insoumise et le Rassemblement National sont les deux seuls groupes qui, à ma connaissance, ont annoncé qu'ils voteraient leurs motions de censure respectives. Et par ailleurs, la logique politique d'une motion de censure, c'est pas simplement de s'arrêter à la censure. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le renvoi d'un gouvernement qui n'est pas satisfaisant, ce n'est pas une fin en soi. Macron démission, c'est pas un programme politique. C'est un slogan. Mais c'est pas un programme, c'est pas un projet. Une motion de censure porte les germes d'un accord de majorité alternative. Donc une motion de censure, c'est un texte qui a vocation à essayer de rassembler une nouvelle majorité pour supplanter la majorité actuelle et lui supplanter un nouveau gouvernement. Donc, si vous négociez une motion de censure avec un autre groupe, ça veut dire que vous discutez avec ce groupe de la possibilité que vous preniez le pouvoir ensemble. Donc on se met d'accord, on négocie, on discute. Et on essaye de tracer les voies d'un chemin, d'une alternative, etc. Est-ce que la France Insoumise et le RN veulent gouverner ensemble le pays? Je ne pense pas. Si une motion de censure passe, est-ce qu'il y a un risque de dissolution? Bah, conformément à ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez la raison pour laquelle, si jamais une motion de censure passe, il y a de fortes chances qu'il y ait une dissolution. Non pas que Macron le souhaite, mais Macron sera probablement contraint de dissoudre, faute de pouvoir nommer un nouveau gouvernement. Sauf s'il arrive à nommer un nouveau gouvernement, c'est possible. Je suis très curieux de voir la tête d'un gouvernement RN NUPES. C'est pas NUPES, hein, c'est LFI. Il n'y a que LFI qui a annoncé qu'il voterait avec le RN, la motion de censure du RN. Le LFI l'avait déjà fait sous la précédente mandature. Les députés insoumis avaient voté une motion de censure des Républicains, qui avait été déposée par les Républicains. Et ils l'avaient votée. Mais c'était les seuls. Les socialistes n'avaient pas voté, les communistes non plus. Est-ce que la motion de censure qui serait votée entre tous les groupes, c'est ça? Ou c'est se mettre d'accord pour dégager le gouvernement et aller à l'affrontement dans les urnes. Ben ça dépend. Ça dépend ce que tu cherches. N'y a pas un bail comme quoi on ne peut pas dissoudre pendant un an après l'installation d'une nouvelle législature. Je sais plus. Peut-être que tu ne peux pas dissoudre pendant l'année qui suit une dissolution. Ou alors c'est l'année qui suit les élections. Je sais pas. Est-ce que ça existe des gouvernements patchwork en piochant dans tout l'hémicycle? Ça a existé par le passé, c'est ce qu'on appelle des gouvernements d'union nationale. C'est très rare. Un gouvernement d'union nationale, en général, c'est des gouvernements en contexte de guerre. Par exemple, la Première Guerre mondiale en 1914, il y a eu un gouvernement qu'on appelait l'Union sacrée. Tous les partis politiques ont rejoint l'Union sacrée pour gouverner ensemble le pays dans un contexte de faire la guerre à l'Allemagne dans les tranchées. Pourquoi Macron démissionne pas comme ses homologues anglais et italiens? Parce que ses homologues anglais et italiens ne sont pas présidents de République, mais ils sont premiers ministres. Et pourquoi Macron démissionne pas? Parce qu'il a été élu. Il a la légitimité de l'élection. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été Pétain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain a été voté par des députés de tous les bancs de l'hémicycle, presque tous les bancs, puisque des députés étaient absents, ils étaient en fuite. Merci Christopher pour ton prime. L'Union sacrée jusqu'en 1917, ouais. Et personne n'est plus légitime que Macron, il garde une majorité partielle. En plus, c'est vrai. Macron a une majorité relative, mais c'est quand même une majorité. C'est-à-dire que si Macron n'est pas légitime, enfin, c'est pas Macron, c'est Elisabeth Borne. Si Elisabeth Borne n'est pas légitime, tous les autres groupes ne le sont encore, le sont encore moins légitimes. Je viens d'arriver, on parle de motion de censure, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé de particulier, c'est juste que ça intéresse beaucoup de gens, la motion de censure. C'est normal. Il n'y a pas eu de motion de censure adoptée depuis 1962. Je comprends que ça turlupine. Et ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que la motion de censure n'est pas une fin en soi. Virer un gouvernement qu'on n'aime pas, c'est pas gagner une partie, ça. C'est éventuellement le début de la partie. Parce qu'ensuite, il faut gouverner. Il faut faire mieux que lui. La seule légitimité devrait être les voix des parlementaires. La légitimité d'une personne n'a rien de démocratique. Bah, les parlementaires et le président de la République sont issus pourtant de la même légitimité. Jean, ton macronisme n'est pas du tout camouflé, c'est aberrant. Comme tu veux, comme tu veux. Si ça te fait plaisir. Et puis le suffrage consistoire aussi. Non, suffrage consistoire, ça n'existe pas. C'est suffrage censitaire auquel tu fais référence. Question a déjà été posée, mais est-ce qu'il est possible de forcer le gouvernement à démissionner? Non. Il n'est pas possible de forcer le gouvernement à la démission. En revanche, il est possible de traduire en justice le président de la République. C'est une procédure qui est prévue dans la Constitution, qui s'appelle la Haute Cour de justice. Et j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Jean est pas macroniste, il est juste snob, c'est pas sa faute. C'est pas du snobisme. Non, c'est pas du snobisme. C'est pas condescendant hein, quand je vous dis que une motion de censure, c'est pas une fin en soi. Comment vas-tu Jean? T'as l'air un peu fatigué. Oui, je suis claqué. Je suis claqué, j'ai pas le moral. C'est pour ça que je fais un stream très détente, on papote. J'ai envie de discuter avec vous, ça me fait plaisir. Du coup, s'il y a une motion de censure qui mène à une dissolution, on peut éventuellement se retrouver avec une majorité présidentielle plus forte, auquel cas les censures auraient perdu. Oui? Oui, oui, non, non, mais oui, 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 bien sûr. Ou à l'inverse. Motion de censure. Si jamais il y a une dissolution, je vous rappelle qu'une dissolution, c'est rien de plus que des élections. Hein. Donc c'est le peuple souverain qui décide, qui renvoie des nouveaux députés. Dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Soit le peuple français renvoie à nouveau une majorité relative, donc il n'y a toujours pas de majorité absolue, c'est toujours le bordel à l'Assemblée, et en fait, la motion de censure n'aura rien réglé. Ça peut arriver. Ou alors, les Français votent, et cette fois-ci, se dégage une majorité plus claire, quelle qu'elle soit. Et je dis bien, quelle qu'elle soit. Ça peut être les macronistes, ça peut être la NUPES, ça peut être le Rassemblement national, je ne sais pas. Faudrait qu'il y ait des élections pour qu'on le sache. Que penses-tu de Louis Boyard? Bah, c'est un jeune député très chouette, Louis Boyard. Enfin, je le connais pas personnellement, j'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. Mais c'est un jeune député, donc déjà pour moi ça marque des points parce que j'aime bien les jeunes députés. Et en plus, je sais pas, je le trouve chouette. Il a l'air. C'est un opposant à Emmanuel Macron. Ils se font bien dans l'opposition de la France insoumise. Il joue bien son rôle. La dissolution n'empêche pas de se représenter. Non. Non, non, non. Est-ce que t'as pas l'impression qu'avec le temps, le développement des projets de budget participatif, une sorte de démocratie participative locale, on est en train de changer nos systèmes politiques sur le fond? Si, si, je suis d'accord avec toi. Il y a un mouvement de plaque tectonique depuis une quinzaine, vingtaine d'années, vers l'implication des citoyens dans les processus décisionnels. Et notre bonne vieille démocratie représentative à la papa est petit à petit en train de muter dans une démocratie qui essaye de se doter d'éléments d'implication, avec plus ou moins de succès. Mais effectivement, tu as raison, au niveau local, dans les budgets participatifs, dans les concertations locales, les comptes rendus de mandat, au niveau national, avec les conventions citoyennes et autres grands débats nationaux et autres conseils nationaux de la refondation, ça balbutie, ça tente des trucs, c'est pas clair, c'est encore le bordel, mais tu sens, effectivement, je suis d'accord avec toi, qu'il y a une mutation en cours. Et c'est une mutation que tu retrouves dans d'autres pays européens. Hein. Il y a beaucoup de démocraties dans le monde qui sont en train de petit à petit muter. Pourquoi tu trouves que c'est le bordel à l'Assemblée? C'est juste nos parlementaires qui savent pas faire de la politique. Bah, n'hésite pas à leur expliquer comment faire, du coup. Pourquoi je trouve que c'est le bordel à l'Assemblée? Simplement parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Aucun groupe n'a la majorité absolue. Donc, le gouvernement se retrouve mis en minorité sur des amendements. Donc, ça crée une situation parlementaire dans laquelle il y a de la discussion. C'est pas forcément le bordel, hein, en plus. Il y a de la discussion parlementaire, c'est le job du Parlement, c'est du parlementarisme, ça discute, ça négocie, il y a des hésitations, il y a des coups de billard, etc. J'ai envie de dire, notre cinquième, le Parlement, d'ailleurs, c'était une analyse qui avait été proposée par un professeur de droit constitutionnel cet été au mois d'août. Il avait écrit un article sur un blog à l'issue des débats sur la loi pouvoir d'achat et sur la loi sur le projet de loi de finances rectificatives. Et il disait, j'étais assez d'accord avec lui, il disait en fait, notre démocratie est en train de fonctionner normalement, en fait. Il n'y a rien d'anormal dans ce qu'on est en train de vivre en France. Hein. Au contraire, la France est en train de devenir un pays européen comme les autres. C'est-à-dire un gouvernement qui n'est pas absolument majoritaire tout seul, qui est obligé de discuter, qui est obligé de trouver des compromis, des députés d'opposition qui parviennent à obtenir à arracher des concessions. Finalement, la démocratie française se porte bien. Le gouvernement n'est pas non plus complètement empêché de gouverner. Il a réussi à faire voter son PLFR, il a réussi à faire voter son projet de loi de finances, de pouvoir d'achat. Ça discute, ça négocie. Il n'y a pas de grosses surprises non plus sur les votes qui sont gagnés ou perdus. C'est pas non plus la bérézina. Voilà. Et je suis assez d'accord avec lui, en fait. C'est juste que nous, les Français, on est surpris parce qu'on n'était plus habitués à ça. On est juste en train de réapprendre ce que c'est qu'une démocratie un peu normale, quoi. Les motions de censure, ce sont à vote découvert ou secret. C'est en scrutin public, donc c'est un vote public. Il serait donc bon de ne plus dire que c'est le bordel, car c'est très objectif. Mais ça dépend, oui, effectivement, subjectif, oui, non, oui, c'est subjectif de dire que c'est le bordel. Je dis que c'est le bordel parce que le gouvernement n'est pas majoritaire et continue à se comporter comme s'il l'était. Ce qui fait que ça, il y a du frottement. Être élu face au RN ne devrait pas compter comme une vraie élection. Et au nom de quoi? Ça discute surtout avec la droite. Oui, le gouvernement compte beaucoup sur les voix des Républicains pour créer des majorités de circonstances. Après, là, il y a eu un amendement qui a été adopté. Il y a un amendement du MoDem qui a été adopté avec les voix de la NUPES. Pourquoi cette volonté d'ordre? Ça, c'est effectivement consubstantiel à la naissance de la Ve République et au contexte qui a donné naissance à la Ve République. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a l'histoire de nos institutions et il y a la manière qu'ont eu les gens de les vivre, de la vivre, cette histoire. Il se trouve qu'après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1946, il y a un régime qui est entré en vigueur et qui s'appelle le régime de la 4e République, qui faisait suite à la Troisième République qui s'était effondrée dans le vote des pleins pouvoirs à Pétain. Okay? Donc Pétain a les pleins pouvoirs en 40. Jusqu'en 45, il gouverne avec une dictature qui s'appelle l'État français, et non plus la République française. Donc il n'y a plus liberté, égalité, fraternité, il y a travail, famille, patrie, enfin bref. Et à partir de 46, à partir des travaux du Conseil national de la Résistance, se crée un nouveau régime parlementaire qui reprend beaucoup des éléments de la Troisième République, c'est-à-dire le parlementarisme, un régime d'assemblée. Ce régime, il avait ses mérites et ses défauts, et c'est très subjectif, en fait, la notion de mérite et de défaut. Il se trouve que la Quatrième République a eu du mal à gérer un certain nombre de crises, et notamment la guerre en Algérie. Il y a un camp politique qui va tirer son épingle du jeu, c'est le général de Gaulle, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle revient au pouvoir en 58, après sa traversée du désert. Entre 46 et 58, de Gaulle, il était peinard chez lui en pantoufles à Colombelles-les-Deux-Églises. Et il est rappelé au pouvoir en 58 tellement c'est le bordel. Et le général de Gaulle écrit une nouvelle constitution avec Debré qui s'appellera la Ve République. Et cette Ve République a été créée dans un esprit de rationalisation du parlementarisme pour éviter les dérives issues de la Quatrième République. Et quand je dis dérives, c'est pas moi qui dis que ce sont des dérives, c'est comme ça que les gaullistes le voyaient. Donc De Gaulle écrit, taille une nouvelle constitution à la mesure de son costume à lui et de sa vision à lui de ce que doit être l'organisation des institutions, et notamment de ce que doit être le rôle du président de la République. Et en gros, je vous passe l'histoire un peu courte, mais entre 58, 62, etc., il y a des évolutions qui font qu'on arrive dans un régime qui est celui de la Ve République, que l'on appelle un régime parlementaire rationalisé, semi-présidentiel. Alors on utilise plein de mots différents, ça dépend. Tous les constitutionnalistes ne sont pas d'accord, il y a des débats, c'est passionnant. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on a un régime parlementaire, parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement, mais qui est quand même sacrément contrebalancé par l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui donc a un pouvoir d'initiative énorme, a un pouvoir de dissolution, un pouvoir de nomination, etc. Donc il y a une rationalisation, il y a un domaine de la loi, il y a un domaine du règlement, etc. Le gouvernement n'est pas totalement démuni, il y a le 49-3, il y a des éléments dans la Constitution qui n'existaient pas sous la 4e et qui ont été rajoutés dans la 5e pour permettre pour permettre un mode de fonctionnement de nos institutions pensé par les gaullistes. Et grosso modo, pour vous le faire simple, ce que disait Charles de Gaulle, il le disait très clairement, nous avons besoin d'un système politique dans lequel il y a des majorités fortes qui gouvernent, quelle que soit leur couleur. Hein. Ce n'est pas forcément des gaullistes, ça peut être de la gauche, etc. Mais il faut que la majorité soit forte pour que nous ne nous retrouvions pas dans le système kafkaïen de la 4ème République, où personne n'avait la majorité, tout le monde devait négocier avec tout le monde en permanence, du coup les gouvernements se faisaient et se défaisaient tout le temps, du coup personne ne savait qui gouvernait, c'était le dawa, etc. Les Français détestaient ça. Voilà ce que De Gaulle en disait. Et donc c'est pour ça que la 5ème République a instauré le suffrage majoritaire par circonscription pour l'élection des députés, de manière à forcer des majorités stables et des majorités fortes. Et c'est vrai qu'on a pratiquement toujours eu des majorités fortes depuis 58. À deux exceptions, entre 88 et 93, et depuis 2022. Depuis 2020. Depuis 2022, pardon. C'est la deuxième fois seulement depuis 58 qu'on a une situation où on n'a pas de gouvernement fort, on n'a pas de gouvernement avec une majorité forte. Voilà. Les Républicains risquent de vouloir se démarquer à l'Assemblée de la majorité présidentielle, donc c'est une carte que la majorité va pouvoir utiliser longtemps. Mais oui, parce qu'en fait, c'est vraiment la grande difficulté chez les Républicains, c'est que ceux qui sont élus aujourd'hui les Républicains, là à l'Assemblée nationale, le groupe Les Républicains, ce sont que des députés qui détestent Macron. Les députés, les Républicains, enfin les ténors des Républicains qui aiment bien Macron, ils ont déjà rejoint Macron via Horizon, etc. Ils sont plus là en fait, ils sont déjà dans la nouvelle majorité. Via le MoDem, etc. machin. Donc ceux qui restent, c'est pas des potes de Macron, hein. C'est des Ciotti et tout, c'est des gens. Ils ont été élus contre des macronistes dans leur circonscription. Donc un député Les Républicains qui a remporté une élection dans sa circonscription contre un macroniste, il va pas venir à l'Assemblée nationale pour voter les lois des macronistes. Il est pas d'accord. Il dit, non, attends, 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 moi j'ai pas été élu pour soutenir Macron, hein. Donc je vais négocier, je vais faire chier. Pareil pour les socialistes, oui, t'as raison. Pareil pour les socialistes. Ils ont été élus contre des macronistes. C'est pas pour voter leur loi, hein. Donc, ça négocie. Chirac et le gouvernement Jospin, ça compte pas. C'était une cohabitation et Jospin avait une majorité forte, mais c'était une majorité plurielle, c'est vrai. C'est une majorité plurielle. Mais Jospin a gouverné pendant 5 ans, hein. Donc d'un certain point de vue, Jospin, il avait une majorité forte, hein. Jospin, certes, est une majorité plurielle, c'est-à-dire que c'est une coalition de partis de gauche, mais bon, il gouvernait, quoi. Ça négociait, c'était un peu le bordel, parfois, c'est normal, mais ça négociait. Et au final, bah, au bout de 5 ans, Jospin, il a gouverné le pays pendant 5 ans, hein. Là, les Républicains et les Macronistes se jettent la balle sur les transports en Île-de-France avec le chantage de l'augmentation du Navigo, une très mauvaise ambiance. Ah bah, tu m'étonnes. Le Pass Navigo, c'est évidemment la région Île-de-France qui est présidée par Valérie Pécresse. Donc tu m'étonnes qu'il y a des règlements de compte sur ce sujet. Mais très bon exemple. Comment est-ce possible de casser une grève en réquisitionnant des grévistes? C'est grâce à quelle loi? Putain, on l'a vu hier soir. Faut que tu regardes la rediff du stream d'hier. On a lu la loi. C'est l'article 2245-1 du Code des collectivités territoriales, je crois. Pouvoir du préfet, réquisition, machin. Donc. Tout ça pour. Si je reviens aux députés les Républicains, ils pensent aussi aux élections de 2027. Ils se disent moi, si mes électeurs ont voté pour moi et pas pour le macroniste dans ma circonscription, c'est pas pour que dans 5 ans je retourne devant mes électeurs en leur disant bon, bah voilà, regardez, j'ai voté toutes les lois de Macron. Les électeurs, ils vont dire bah, t'es gentil, mais. Non, non, on voulait pas ça. 2215-1, alinéa 4. Ouais, c'était peut-être ça, je sais plus. Mille 2027 ou une possible dissolution. Oui, ou une possible dissolution, absolument. Et le dîner de Wauquiez, on en parle. C'est quoi le dîner de Wauquiez? En imaginant juste un instant que Macron dissout l'Assemblée nationale, LR ne peut pas structurellement survivre car en plein élection interne. Non. C'est pas, non, ce sera pas la première fois qu'il y a des élections en plein congrès. C'était déjà arrivé pour les socialistes, pour les communistes. Non, 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 c'est indépendant de ça. Les électeurs dans les circonscriptions, ils s'en branlent, hein, du congrès LR. T'as toujours pas retrouvé ta redite de France Info. Non, non, mais elle est pas en ligne. Elle est pas en ligne, elle est pas en ligne. Désolé. Il a organisé des dîners à 100 000 euros. 1100 euros le dîner par personne financé par l'argent public. Ah bon? Ah, payé par la région? Ah merde. Mais c'était quoi comme dîner? Enfin, je sais pas, il y avait combien de personnes? Enfin, je sais pas. Ça me paraît beaucoup, 1100 balles. Temps en temps, alors moi c'est un dossier de Mediapart? D'accord, ok. 90 personnes. Ah, ça fait cher quand même. Enfin, je sais pas, c'était qui les 90? Non, non, après, je sais pas s'ils faisaient ça régulièrement. Moi, je suis le premier. Moi, je suis pas pour la démagogie, etc. Je suis le premier à dire que ça me dérange pas que parfois l'État et les responsables publics fassent preuve de générosité avec, avec l'argent public dans l'organisation d'événements lorsqu'il s'agit, par exemple, de féliciter des sportifs. Enfin, je te donne un exemple, excusez-moi, c'est un peu une caricature, mais quand tu reçois une équipe, l'équipe de France, de la délégation française aux Jeux Olympiques pour les féliciter pour les médailles d'or, bon, bah, tu sors le champagne, ça me paraît... Évidemment, tu ne sors pas le champagne tous les jours pour tout le monde, mais ça me paraît normal, etc. Là, je n'ai pas lu l'article de Mediapart, hein, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Mais 100 000 balles, ça me paraît quand même beaucoup. Hein. La région Auvergne-Rhône-Alpes... Achat d'électeurs, acheter 90 électeurs, c'est ça qui va gagner. D'ailleurs, je me suis fait récemment un docu sur les cuisines de l'Élysée, c'est passionnant. Ah, je l'ai pas vu. Et pour les professionnels de santé, après le Covid, on sort quoi? Des applaudissements? Bah, y a des... Moi, à une époque, quand j'écrivais les discours de la ministre de la Santé, j'écrivais des discours de remise de Légion d'honneur ou de médaille du mérite pour des médecins. Des professionnels de santé. Donc, ouais, on sortait le champagne, ouais. Les pots de thèse, c'est largement moins cher. Oui. Surtout, c'est payé par le thésard, non? L'entre-soi. De quoi? C'est quoi la journée type d'un plume d'un ministre? Oh, il n'y a pas de journée type. Hein. T'arrives à 8h au bureau, tu sais pas de quoi la journée sera faite. Hein. Tout part en couille à 10h du mat quand il y a une news qui tombe et c'est le bordel. On sait que les pots de backseat, c'est aussi 1000 balles par personne. Moi, je n'ai pas voté dans l'opposition pour qu'ils votent contre, mais pour maintenir un dialogue politique, je crois que les compromis est toujours mieux. Il y a différentes manières de s'opposer, effectivement. L'opposition n'est pas un bloc monolithique, il y a des oppositions qui se veulent plus constructives que d'autres. Effectivement. Comment ça se fait que les amendements soient votés jusqu'à 4h du mat? C'est les débats infinis. Non, ce n'est pas les débats infinis. C'est juste que le calendrier d'examen des amendements est très contraint par le temps. L'agenda législatif est très embouteillé. Donc les députés finissent des marathons législatifs tard le soir pour pas déborder sur la journée du lendemain, parce qu'il y a un autre truc qui est prévu. Et donc s'il faut finir tard, en général c'est plutôt en fin d'examen, ils finissent tard parce qu'ils finissent tard. En vrai, c'est abuser les débats et les votes en pleine nuit. Ouais, bah, y a des techniques de rationalisation du travail parlementaire, mais après, si les députés décident de prendre la parole sur chacun des amendements en permanence, c'est sûr que ça ralentit, hein. Mais je suis d'accord avec toi, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des députés, juste que le temps législatif est peut-être mal optimisé, c'est possible. Il y avait des journées complètement café, parce que pas d'événement prochainement et c'est déjà tout écrit ou c'était toujours galère. C'était presque toujours galère, sauf pendant les vacances, quand la ministre est en vacances. Tu sais que t'as une semaine assez tranquille. Du coup, t'en profites pour avancer sur d'autres trucs. Comment ça se fait que l'amendement sur les super profits de l'opposition a été accepté alors que d'autres non? C'est pas un amendement de l'opposition, c'est un amendement du MoDem qui, en désaccord avec le gouvernement, ce qui est rare, a fait adopter un amendement avec les voix de la NUPES. Donc, bah, il s'est trouvé qu'il y avait une majorité à ce moment-là pour adopter cet amendement. Voilà, c'est tout. Le souci, c'est que tu peux passer des amendements ou autres à 3h du matin, il n'y a personne pour s'y opposer. Alors, oui et non, parce que s'il n'y a personne pour s'y opposer, il n'y a non plus personne pour les voter. Il ne faut pas croire que c'est aussi simple d'avoir des gens pour voter pour que des gens pour voter contre. Donc, non, tu as le même problème pour les faire adopter. Et puis, par ailleurs, encore une fois, il y a des rationalisations de travail parlementaire qui font que les sujets les plus durs, l'Assemblée peut décider de les décaler à demain pour en discuter, pour que à 3 heures du mat, on ne vote que les sujets les moins importants. L'important, c'est d'en décider par les députés, quoi. N'y a pas un minimum légal de nombre de députés pour les votes. En séance publique, sur des votes d'amendement, non. Il n'y a pas de quorum. Au Parlement européen, on a des solutions miracles, les amendements de compromis, un amendement qui fait tomber d'un coup 100 ou 200 autres. Alors, ça existe aussi en France, hein. T'as les amendements de compromis, ça existe aussi, qui font tomber des articles et tout, donc ça fait tomber des centaines d'articles, des centaines d'amendements. Dans les collectivités locales, on a les délibérations balais aussi, que tu votes à la fin du truc. Enfin, tu votes en une seule fois toutes les délibérations sur lesquelles il n'y a eu aucune prise de parole. C'est très perturbant, au début quand tu bosses dans les collectivités. Les députés peuvent pas faire de procuration. Si, il y a un système de délégation de vote qui existe. Mais un seul vote, je crois, par député en plus du sien. Le président de l'Assemblée nationale vote? Non. Le président de l'Assemblée nationale s'abstient de voter. C'est un usage. Vraie question, pourquoi les députés votent leur propre augmentation de salaire? J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de la rémunération des élus. C'est pas un salaire, c'est une indemnité. Pourquoi c'est eux qui votent? Bah, c'est parce qu'en fait, ils votent des alignements. En fait, le calcul de l'indemnité des parlementaires est calqué sur des grilles de salaire et d'indemnité de la fonction publique. Et que donc, mécaniquement, quand tu modifies le point d'indice des fonctionnaires, tu modifies la base de calcul de toutes les indemnités, y compris celles des parlementaires. En l'occurrence, là, je crois qu'ils ont voté sur l'inflation, un truc comme ça. Voilà. Est-ce que le suppléant du président de l'Assemblée siège? Non. Non, non, non. Les suppléants, c'est que pour les ministres. Le président de l'Assemblée est un. La présidente de l'Assemblée, c'est une femme, est une députée comme les autres. Les présidents de l'Assemblée changent, comment se retrouvent-ils 4 à cette place? Comment se retrouvent-ils à cette place? C'est une élection, hein. Le président de l'Assemblée nationale est élu par les députés pour présider leur assemblée. Voilà. Elle est élue comment, la présidente? Elle est élue par un vote. C'est comme une association, hein. Et voilà. Est-ce qu'on peut être ministre et président de l'Assemblée nationale? Non, bien sûr que non, pour des raisons de séparation des pouvoirs. Tu ne peux en aucun cas être à la fois pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Sûrement pas. Est-ce que les ministres votent? Non, pour la même raison. Donc c'est souvent le président du groupe majoritaire. Absolument. Alors le président, pas toujours, mais c'est une personne influente du groupe majoritaire qui est élue président de l'Assemblée nationale, en général, oui. Oui. Genre les présidents de l'Assemblée, ils font campagne et tout. Ah oui. Ah non, mais le président de l'Assemblée, il est élu comme les autres, hein. Il est élu dans sa circonscription, dans son territoire, il distribue des tracts et tout. Ah non, il fait son boulot, hein. D'ailleurs, il y avait un portrait sur elle dans Le Monde la semaine dernière où il parlait de comment la Russie a se fait élire contre la volonté de Macron. Ouais, je sais, il y a le Brown Pivet. Macron l'aime pas. Pourquoi les ministres peuvent être députés? Les ministres peuvent pas être députés. Ils peuvent pas être députés et ministres en même temps. C'est pour ça qu'on a inventé les suppléants, justement, pour suppléer à l'absence du député devenu ministre. Et pourquoi est-ce que des députés peuvent devenir ministres? C'est plutôt comme ça qu'il faut poser la question. La raison est très simple, c'est que comme le gouvernement a besoin d'avoir l'assentiment d'une majorité à l'Assemblée nationale, c'est normal de prendre des membres de la majorité pour s'assurer une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que le suppléant touche des indemnités? Ah bah oui, le suppléant, il supplée, il est député pendant sa suppléance, hein. Mais pas le seulement s'il supplée, hein. Un suppléant, c'est quelqu'un qui a... Moi, je connais des suppléants, ils ont une vie normale, hein, comme vous, comme moi, ils bossent le matin et tout, ils sont pas députés. Et un jour, j'avais une copine comme ça, il y a son téléphone qui sonne un matin. C'est sa députée qui l'appelle. Donc sa députée qui siège depuis 2 ans, je crois, un truc comme ça, qui l'appelle, qui lui dit « Alors, je t'appelle parce que j'ai une nouvelle. Figure-toi que je vais être nommé au gouvernement, donc je vais devenir ministre, ce qui veut dire que tu vas devenir député. » parce que t'es ma suppléante. Et là, la suppléante, elle lui dit « Ouais, mais alors moi, ça m'arrange pas. Parce que comment te dire que là, je viens de trouver un nouveau taf, on s'est installé avec mon mec et tout, ça chamboule un peu toute ma vie, là. Enfin, je veux dire, c'était pas prévu. Comment ça, tu deviens ministre, tu t'y attendais? Non, je m'y attendais pas, je suis surprise comme toi. Ok. Ok, bah écoute, merci de m'avoir appelé. On se fait une bouffe la semaine prochaine? Oh putain, ça change où là? Oh merde! Ah, d'accord, ok. Bon, allez, je raccroche. Et alors là? Tu rentres le soir chez toi, tu dis à ton mari au fait, chérie, faut que je te parle. On a un petit sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe pas bien dans ton boulot? Si, mais c'est pas le sujet. C'est que je vais me barrer de ce boulot. Mais pourquoi? En fait, je vais devenir député. D'ici un mois. Ah! Ah merde! Ah mais alors du coup. D'accord. Enfin, félicitations ma chérie déjà, mais ensuite, attends, faut qu'on se réorganise parce que comment on fait pour l'école, pour les gamins et tout. Non, mais vraiment, hein, faut se rendre compte que c'est ça les discussions. Hein. T'es en mode what, merde, putain, député, j'avais pas prévu ça. Tu peux pas garder le poste à titre conservatoire. Ça dépend pour qui tu bosses, c'est ton patron, non. Ça dépend pour qui, si tu bosses dans le privé, ton employeur il va te dire, c'est-à-dire tu deviens député, je veux dire, tu continues à bosser avec nous ou pas? Bah, c'est-à-dire que je peux pas venir au bureau, quoi. Enfin, je serai à l'Assemblée, je voterai des amendements. Ah oui, donc tu te casses en fait, ouais. Oui, donc c'est une démission, bah oui, du coup. Ah, t'es chiant. Bon, bah écoute, tu me rappelles dans 3 ans quand t'as perdu l'élection? Quand tu rechercheras du boulot. Nous, on était contents de bosser avec toi. Hein. Et du coup, si la ministre se fait virer, le suppléant se retrouve sur le carreau? Absolument, absolument. Dans l'autre sens, ça existe aussi. Dans l'autre sens, ça existe aussi. T'as des députés comme ça, qui sont députés suppléants, et du jour au lendemain, leur ministre se retrouve viré du gouvernement, et eux, du coup, ils perdent leur poste de député en un claquement de doigts. Pareil, hein, j'ai connu des copains. Et... ça va toi en ce moment? Bah écoute, je cherche du boulot. Si tu crois, j'ai plus de pognon, c'est le bordel, j'arrive plus à payer mon loyer, c'est la merde. Je suis plus député. J'envoie des CV, mais les gens, ils me regardent avec des gros yeux en mode qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Vous avez fait quoi ces 4 dernières années? Député. C'est-à-dire. Mais vous savez faire quoi? Est-ce que ça arrive que le suppléant soit l'assistant parlementaire du titulaire? Oui, ça arrive, ça arrive. Pas tous les jours, mais ça arrive. Du coup, député, t'as pas le chômage vu que t'as pas de salaire? Si, il y a quand même une cotisation, une caisse de chômage, si. Donc il y a un chômage pour les députés qui existe. Ça a été mis en place récemment, ça. Après, le suppléant d'Abad, ça a dû être l'ascenseur émotionnel. Ah bah le suppléant d'Abad, il est pas resté longtemps député. Hein. Il y a une sorte de retraite comme à l'armée. Alors c'est pas une sorte de retraite, c'est une retraite comme tous les Français. Il y a une caisse de retraite avec des cotisations. Et tu ne peux faire valoir tes droits que quand tu arrives à l'âge de départ à la retraite. Le suppléant peut se faire virer à tout moment, du coup. Oui, enfin, il dépend de son ministre. Enfin, il dépend du ministre. Si le ministre perd son ministère, il redevient député. Et donc, son suppléant qui gardait le siège de député, bah, il dégage. Et si le suppléant est nommé aussi ministre, à ce moment-là, on fait une nouvelle élection dans la circonscription. D'ailleurs, récemment, il y a eu un député qui a été nommé ministre et son suppléant, qui du coup aurait dû devenir député, qui a refusé. Du coup, ils ont organisé une nouvelle élection dans la circonscription. Il n'y a pas de suppléant du suppléant, ça n'existe pas. Est-ce que le suppléant peut dire non? Bah voilà, dans l'exemple que je viens de te donner, la réponse est oui, suppléant peut refuser. Mais du coup, ça veut dire démission, et qui dit démission dit nouvelle élection. Il n'y a pas de service d'aide à la réinsertion des élus, Georges Pipe, des parlementaires. Si, 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 si. C'est en train de se mettre en place petit à petit. Elle n'a pas refusé, elle n'avait pas le droit à cumul des mandats. Si, elle a fait un choix. Elle a fait le choix de garder son mandat. Elle aurait pu refuser et devenir députée. Enfin, elle aurait pu accepter le mandat de députée et devenir députée. Elle a fait le choix de ne pas accepter de devenir députée. Donc, elle a refusé. Du coup, lors des élections des députés, les suppléants sont présentés également. Absolument. T'as pas vu, tu te souviens pas des élections en juin dernier? Sur l'affiche, il y avait deux personnes en général. Tu te souviens pas? Regarde. Alors regarde, ce genre d'affiche là, tu te souviens? T'as deux visages. T'as deux personnes. Lui, c'est le candidat principal, et elle, c'est sa suppléante. Et pareil, candidat principal, suppléante. Voilà. Bon, après, il y en a qui mettent pas la photo du suppléant, qui écrit juste en petit le nom du suppléant. Bon, Bernard, lui, il s'emmerde, il écrit rien, lui, il s'en fout, il écrit juste. Il y en a qui mettent la photo des deux, ils sont ensemble sur la photo. Il y en a qui mettent un petit canard sur la photo. Manuel Bompard. Ah oui, lui, il a mis la photo. Ah, c'est pardon, elle est cachée par ma caméra. Il a mis la photo derrière ma caméra de sa suppléante. Donc voilà. Donc oui. Dans ma circo, pour le RN, il n'y avait pas de photo de la candidate, juste Marine Le Pen et Bardella. Oui, ça arrive. Il se passe quoi si le suppléant et le titulaire sont députés en même temps? Tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas être suppléant et candidat dans la même circonscription. Comment ça se passe avec son employeur quand on est conseiller municipal, départemental, région? Ça dépend du temps que te demande ton mandat. Moi, je connais plein d'élus municipaux, départementaux et tout qui continuent à bosser tous les jours. Hein. Ils bossent le matin, ils vont au boulot comme tout le monde. Ils ont un patron qui est con comme tous les patrons. Ils ont des collègues, une machine à café et tout. Sauf qu'en plus de leur boulot, ils ont un mandat. Donc, ils coltinent des réunions tard le soir, en plus de leur boulot, pour aller gérer les affaires de la région, du département ou de la mairie. Après, si ça te prend un peu plus de temps, tu peux négocier avec ton patron d'avoir un 4/5e, un temps partiel. Tu peux être à mi-temps, ou alors tu peux te consacrer à 100% à ton boulot à ton mandat d'élu. Mais alors ça, en général, c'est tellement mal indemnisé le mandat d'élu que. Là, j'ai une copine d'ailleurs que j'ai vue la semaine dernière, ça m'a fait plaisir, ça faisait 1000 ans que je ne l'avais pas vue, elle est élue locale. Et du coup, je lui ai dit, alors comment ça va? Raconte, ça se passe comment ton mandat et tout dans ton coin? Elle m'a répondu, oh, bah, je démissionne. Je suis sérieux? Ouais, je me casse. J'en ai ras le bol. J'en ai ras le bol. Ça me demande un temps complètement délirant. J'ai absolument pas le temps. Je gagne que dalle. Je peux pas continuer. J'ai aucune envie de continuer. J'en ai ras le bol. Je me barre. Je lâche mon mandat et je. Elle a trouvé un nouveau boulot et tout. Elle a dit j'ai envie de bosser avec ces gens-là. Donc voilà. Je la comprends. Elle avait l'air épuisée, la pauvre. C'est pour ça que beaucoup de maires de village sont des retraités. Oui, c'est aussi pour ça, oui, bien sûr. Oui, ça demande beaucoup de temps. Après, y a des élus qui sont profession libérale. J'avais interviewé un sénateur, vous vous souvenez peut-être, qui s'appelle Bernard Jomier. Bernard Jomier, il est médecin, et il a toujours son cabinet. C'est-à-dire qu'il est sénateur, donc il est au Palais du Luxembourg, toute la journée. Et un jour par semaine, le vendredi, il continue à recevoir des patients dans son cabinet. Dans le 19e arrondissement à Paris. Et il m'a dit, il est hors de question que j'arrête ça. J'arrêterai jamais. J'en ai rien à foutre. Je ménage mon temps et je veux continuer à faire mon métier de médecin. Donc je suis médecin. Rien à foutre. Le vendredi, je ne suis pas au Sénat. Je refuse les rendez-vous, les réunions et les cocktails. Je vais dans mon cabinet, je reçois mes patients. Quelle indemnité pour les maires? C'est calculé en fonction du nombre d'habitants. Juvin, quand je bossais pour lui avec un agenda de fou entre le PE, la commune et l'hôpital. Oui, Juvin, Bernard Juvin? Attends, c'est quoi son prénom? Oui, que j'avais interviewé, qui était venu sur le plateau de Baxit. Philippe Juvin, qui était venu sur le plateau de Baxit. Ouais, Philippe Juvin, ouais, Philippe Juvin. Qui a été candidat au Congrès Les Républicains. D'ailleurs, on avait joué aux jeux vidéo ensemble, il m'avait battu à Mortal Kombat. Mais un des meilleurs souvenirs de Baxit. Philippe Juvin, il est chef de service à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Il est maire de la commune de La Garenne. Et à une époque, il était parlementaire européen, député européen. C'est chaud. Donc, petit cumul de mandats. Bah depuis 2014, c'est plus possible, effectivement. Enfin non, depuis 2017. Sauf qu'à côté, nous, on devait suivre. Ouais. Et donc, non, mais ça dépend beaucoup de la situation, ça dépend beaucoup de, ça dépend beaucoup de la situation. Mais il y a moi, je connais des élus qui dorment 5 heures par nuit. Hein. Y a des élus qui comptent pas leurs heures, matin, midi et soir, ils sont au charbon tout le temps, tout le temps, tout le temps, 1 milliard de mails, 20 réunions en même temps. Un agenda bordélique, pas de moyens et tout. On boit une bière, ça va toi? Écoute, j'ai pas baisé depuis 2 ans, mais ouais, ça va. J'ai pas le temps, je dors pas. Je vois pas mes gosses. Tout va bien, quoi. Mais bon, on sauve le climat, donc, donc ça avance. Et ça fait plaisir de te voir. Bah écoute, moi aussi. Et toi, le stream, comment ça va? Ouais, écoute, ça va bien. C'est cool. Petite question, c'est quoi environ le salaire d'un assistant parlementaire? Bonne question. Le député a une enveloppe, une ligne de crédit qu'il peut utiliser pour embaucher des assistants parlementaires. Il décide du montant des rémunérations de ses assistants en fonction de l'enveloppe qu'il a. Donc il peut payer un peu plus un assistant, un collaborateur ou une collaboratrice si c'est une personne plus expérimentée, par exemple, et payer un peu moins une personne junior. Mais par contre, l'enveloppe, elle ne bouge pas. Elle gagnera pas plus, quoi. Et c'est combien en début de carrière? Je sais pas, ça doit être 2000, 2200 euros net. Moi, bon, je dis ça, c'était à mon époque, c'était ça, ça a peut-être changé. Merci XTZ Play pour ton Prime, excuse-moi, je t'ai pas remercié, merci à toi. Quelle alternative à cet essorage des élus? Je suis conseiller municipal dans l'opposition dans une ville de plus de 30 000 habitants. C'est beaucoup de temps et d'énergie pour peu de satisfaction. Absolument. Absolument. Non, non, c'est... Moi, je suis le premier à défendre les élus, notamment là-dessus, en disant qu'il y a un côté ingrat dans le boulot d'élu. Il y a très, très peu de satisfaction pour les quantités d'heures de travail que tu abats, quoi. Tu te bats pendant des semaines et des mois pour essayer de faire avancer un projet, un nouveau plan local d'urbanisme pour l'environnement, machin et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Tu te bats, tu négocies, tu discutes, tu prépares et tout. Puis à la fin, c'est pas voté. Et ben voilà, t'as bossé pour rien, quoi. Tu te seras bien battu, mais... Et puis, bon, après, je suis pas là pour plaindre les élus. Je continue à penser que les élus locaux, c'est quand même un très très beau mandat, une très très belle implication. Et je trouve ça vraiment formidable, les élus locaux, parce que moi j'ai bossé avec eux, parce que je vois qui c'est, comment ils fonctionnent, et quelle est la réalité de leur boulot et de leur responsabilité. Et parfois, tu dis, putain, si les gens savaient. Si les gens savaient, ils parleraient autrement à leur maire et à leurs élus locaux. Parfois c'est dur hein, pour les élus. Mec qui se tape des réunions à 8h30 du matin à la préfecture pour négocier des budgets, pour défendre son territoire, sa commune, pour avoir plus de bus qui passent, pour avoir plus de ramassage d'ordures, pour avoir des meilleurs budgets, pour se battre pour les gamins, pour qu'ils aient accès à la culture, pour qu'ils aient accès à du sport. Enfin, c'est des batailles, des batailles, des batailles et tout. Tu te fatigues, tu t'uses, etc. Et puis un jour, tu discutes avec quelqu'un sur la place du marché, et tu lui dis que t'es élu, et il dit, oh, les élus, de toute façon, c'est Balkany, tout ça, c'est Magouille et compagnie. Et là, tu dis, putain, je me bats pour ces gens-là, quoi. Allez, on va boire un verre avec Jean Massier, ça me fait plaisir. Il va me remonter le moral. Ouais, non, c'est pas facile tous les jours. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens très gentils qui t'envoient un petit courrier, un petit bonbon pour te dire merci, un petit gâteau au chocolat et tout pour dire au fait je voulais vous remercier, merci pour ce que vous faites et tout. Y a quand même plein de magouilles, on peut pas le nier. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu fais quoi comme métier, toi? Que je te dise, moi, un peu aussi les clichés que j'ai sur ton métier. Ils peuvent laisser leur place au pire. Bah vas-y, prends-la toi la place. Non mais moi je veux bien. Je vous rappelle qu'il n'y a pas assez d'élus locaux. Hein. On n'a pas assez de candidats pour remplir les conseils municipaux et tout. Moi, je refais des salles de bain, ça m'agouille jamais, jamais. Je suis artisan dans le bâtiment. J'ai l'impression que tu parles des profs. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, j'ai essayé des métiers qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pourquoi ne pas s'en prendre plutôt aux élus qui en sapent l'image? Bah, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des. Mais c'est normal, les gens font pas la différence. On peut pas en vouloir, c'est l'image globale de la politique est mauvaise, donc des élus, y compris des élus qui donnent du maximum du leur, et etc., sont parfaitement intègres, s'en prennent plein la gueule. Comment on sait qu'il n'y a pas assez de candidats? Bah, tu demandes à peu près n'importe quel élu local, est-ce qu'il a réussi à boucler sa liste pour les élections municipales facilement, tu vas voir. Il va t'expliquer la galère que c'est. Combien j'en ai vu, moi, des maires. Passer des heures au téléphone à essayer de convaincre quelqu'un d'accepter d'être sur sa liste aux élections. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. On verra si tu seras élu. T'inquiète. Et puis il y a plein de petits bleds où ils trouvent personne pour être maire. Ouais. Oui, quand le maire de la ville, c'est le maire depuis 40, c'est le même depuis 40 ans, il est retraité, il est fatigué, il raccroche les crampons, il raccroche la veste et il arrête son mandat, personne veut prendre sa place et donc du coup, il n'y a plus de maire. T'as déjà été élu? Non, j'ai jamais été élu. J'ai toujours bossé avec des élus, mais j'ai jamais été élu moi-même. Et ça m'a pas donné envie, hein. Je fais un gros bisou évidemment avec tous les élus avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Je vous adore, mais vous m'avez pas donné envie de prendre votre place, hein. Moi, si un copain se présente à une élection et m'appelle en me disant tu veux pas être sur ma liste, je lui réponds c'est mort. C'est pareil dans l'associatif, toujours compliqué de trouver une relève. Ah oui, le fameux qui veut être trésorier pour l'année prochaine. Il n'y a aucune main qui se lève. J'ai croisé dans le métro une fille qui regardait ton live. Je lui ai montré mon écran, on s'est fait un clin d'œil. Beau gosse! Beau gosse! Alors? Vous êtes pas arrêté là, j'espère. Ça s'organise un petit café ou quoi? Je serais très honoré. Jean Massien chill. Non, je fais ce que vous voulez, mais c'est bien. Petit clin d'œil, c'est un bon début. Jean Massier Stace du ring sexe. Oui, je l'avais déjà vu. Mon père lâche la trésorerie d'une association qu'il tenait depuis 30 ans et c'est la panique au comité, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais. Mon père, c'est pareil. Mon père, il a été investi dans une assoce sportive pendant des années. Tout le monde l'en... Il me disait. Alors, moi, je connaissais ça parce que je viens de l'associatif, mais mon père, je crois que c'est un peu sa première expérience. Il me disait tout le monde te chie dans les bottes pendant 2 ans, parce que c'est toi le responsable. Donc, tout le monde t'emmerde, les gens répondent pas à tes mails, c'est le bordel. Tu cours après les gens pour avoir à peu près tout. Leur cotisation, leur réponse aux mails, leur date de disponibilité, machin. Tout le monde te fait chier pendant 2 ans. Et puis, quand tu annonces que tu arrêtes, les gens disent oh non, t'étais bien. Oh non, reste, tu veux pas refaire encore un an, s'il te plaît? Bande d'enculés. Des gens ont déjà baisé pendant tes streams comme chez Ponce True Story. J'en serais très honoré. Réponse de la France, non. C'est souvent ça le milieu associatif. Oui, non, mais associatif, syndical, politique aussi. Donc ouais non, je comprends les élus, je comprends les élus qui sont fatigués, qui sont essorés. Bon, après ils ont aussi des avantages cool parfois, pas toujours, hein. Ouais, mais j'avais des copains élus à Paris. Ils disaient, bon, bah écoute, on a des invites pour aller au match de foot. On a des invites pour aller à des événements culturels, parfois, pas toujours. Des invites pour aller à des trucs où t'as pas le temps d'aller. Oui, en général, non, mais en plus c'est ça. En plus c'est ça. T'as pas le temps d'y aller, t'es trop fatigué. Ah ouais, c'est cool, le concert machin, ça me ferait plaisir d'y aller. Puis le jour J, tu dis, putain, je suis épuisé. Quelqu'un veut ma place de concert? Tu les files à des potes. Ou à des jeunes. Je me souviens à la mairie de Paris. on avait fait ça. À la mairie de Paris, il y avait des élus qui avaient créé une espèce de caisse commune d'invites pour des événements sportifs, culturels, pièces de théâtre, machin. Enfin, bref, on avait une espèce de panier en osier dans lequel on foutait les places. Et on avait un réseau de profs dans les quartiers populaires. Et on leur faisait passer les invites pour les gamins. Et du coup, on avait créé un système de redistribution des invites pour que les gosses des quartiers populaires puissent squatter les... Non, mais tant qu'à faire. De toute façon, on ne dira pas, ça nous fait chier. Donc vas-y, on va filer ça aux gamins dans les quartiers populaires. Et du coup, les profs, ils étaient trop contents. Ils disaient, vous avez des places? Ouais, carrément, vas-y, non, mais vas-y, t'en as combien dans ta classe et tout? Vas-y, on te fait passer des invites. tu les files aux gosses qui vont avec leurs parents, avec leurs grands frères. On se dit, non, mais allez-y, démerdez-vous. Sauf que du coup les établissements culturels, ils avaient commencé à comprendre la manip et du coup, ils n'envoyaient plus d'invites à la mairie. Oh les gars! Bon, en vrai, c'est aussi parce qu'on avait négocié avec les établissements culturels d'avoir des quotas de places pour les quartiers populaires. Soit des tarifs préférentiels, soit gratos. Un jour, je reçois un appel d'un vieux pote qui m'a demandé si ça me branchait d'être sur la liste LFI de ma ville d'origine. J'ai rigolé avant de répondre. Bah non, mec, j'ai mieux à faire dans ma vie, genre des études. Et puis bon, LFI, il m'a fait la gueule pendant un an. Oh, t'es méchant. C'est donc ça le ruissellement. Non, mais je me souviens, je me souviens maintenant, j'étais allé, j'avais invité mon meilleur pote au concert de Snoop Dogg. Je m'en souviens. Et en fait, c'était une invite. Ouais, c'était ça. Je me souviens, c'était un adjoint qui passe la tête dans mon bureau un soir. Il fait yo, Jean, ça te dirait d'aller au concert de Snoop Dogg? Je dis bah grave. Il dit bah tiens, c'est pour ce soir, j'ai deux places, j'ai pas envie d'y aller. J'envoie direct un texto à mon meilleur pote. Je dis frérot, annule tout ce soir, je t'emmène voir Snoop Dogg. Il dit t'es sérieux? Ouais. C'est du détournement d'argent public, ça? De quoi? Faire profiter des invitations gratos à des gamins des quartiers populaires. Ça. C'est une fierté personnelle que de détourner l'argent public. Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? Ton invitation, t'en fais ce que tu veux, exactement. T'as pas le droit de la revendre par contre. C'est plutôt des cadeaux. Non, en fait, pas vraiment, parce que les établissements culturels, ils ont toujours des quotas de places, des invitations pour les partenaires, privés comme publics. Et dans le public, bah, c'est pour les élus, c'est pour la mairie. Donc c'est pareil, le Stade de France, il est en Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai bossé pour le président de la Seine-Saint-Denis. T'inquiète qu'il y a des places au Stade de France pour les élus de la Seine-Saint-Denis, pour... Enfin, c'est des quotas, quoi. Et puis pour les gamins de la Seine-Saint-Denis. Tu sais, on avait négocié ça, on les faisait chier, hein, le Stade de France. Chaque fois qu'il y avait un concert au Stade de France, nous, on disait, on veut 300 invitations pour les gamins des collèges de la Seine-Saint-Denis. Puis pareil au Parc des Princes... je dis ça parce que je bossais à Paris à l'époque, enfin, en région Île-de-France. Et voilà. Vous les aviez? Ouais. Finissez par les avoir. Ce que tu mets en grattage d'invite? Ah ouais. Alors moi, je suis sans scrupule, hein. Quand c'est pour moi, j'ai des scrupules, alors quand c'est pour les gamins des quartiers populaires à l'époque. T'inquiète qu'on arrachait des trucs avec mes collègues. On arrachait des trucs à chaque fois. Il y avait un projet d'investissement dans la ville. C'était mon collègue qui s'occupait du commerce. Il disait t'inquiète, j'ai négocié une petite enveloppe pour les projets culturels des quartiers. Vas-y, let's go. GG mec. Non mais attends, c'est trop bien, on va payer un truc trop cool. Tu sais, on n'arrivait pas à boucler le budget pour le festival machin de hip-hop et tout. T'inquiète, j'ai trouvé un sponsor. Let's go. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi une année? Il avait réussi à négocier l'installation d'une patinoire à Noël, non pas devant le parvis de l'hôtel de ville, comme tous les ans, mais dans un quartier populaire, dans une porte de Paris. Il dit, t'inquiète, j'ai le contact et tout. Le mec, il avait négocié son truc comme un roi. Et du coup, les gamins des quartiers populaires étaient trop contents. Ils avaient une putain de patinoire. C'était trop bien. Tu faisais quoi concrètement avec les mairies? J'étais collaborateur au cabinet de la maire du 20e arrondissement. J'étais collaborateur d'adjoint à la mairie de Paris, donc Paris Central, à l'hôtel de ville. Voilà, j'étais conseiller technique. Une patinoire en glace. Bah oui, tu sais, les patinoires, les trucs de Noël, là, les animations de Noël que t'as parfois. Tu faisais partie de la petite troupe qui entoure les maires. Ouais, exactement. Exactement. Ne pas dire gamin des quartiers populaires une 17e fois challenge. Non, c'est mort. Et donc ouais, non, je m'occupais des affaires scolaires. Je m'occupais de l'égalité femmes-hommes. Je m'occupais de la politique de la ville en lien avec les dossiers sécurité. Je m'occupais des affaires périscolaires, de la caisse des écoles, donc de la cantine. M'occupais du numérique. Enfin, j'ai eu plusieurs postes, plusieurs délégations. Donc là, pareil, j'allais gratter des budgets auprès du rectorat ou à l'hôtel de ville pour la rénovation des écoles. Pensez-vous que les décorations de Noël soient nécessaires l'année où il y a un risque particulier de coupure? Vous savez que les décorations de Noël, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas toujours la mairie qui finance. Les décorations de Noël dans les rues commerçantes, la plupart du temps, c'est les associations de commerçants qui financent. C'est l'association des commerçants de la rue machin, où tous les commerçants mettent un petit billet dans la caisse. Et ils payent comme ça chaque année l'installation des décorations de Noël. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour les clients qui sont contents. En général, la mairie met un petit billet en plus pour filer un coup de main et boucler le budget. La chambre de commerce peut mettre un petit billet aussi, ça dépend. Enfin, bon, en général, on se démerde pour boucler le budget. Donc voilà, sachez-le. C'est souvent la, ouais, c'est souvent la, l'association des commerçants, ouais. Ouais, le Père Noël et les animations, c'est pareil, ouais, le Père Noël et les animations. Alors parfois, vous voyez, on parle de politique locale, mais mettons par exemple que vous êtes maire d'une commune et vous avez un grand magasin qui vient s'installer dans votre ville. Un Carrefour, un City machin et tout. Bon, il vient s'installer. Vous recevez dans votre bureau le directeur régional de Carrefour, là, qui vient vous expliquer à quel point il est heureux de s'installer dans votre ville. Et vous lui dites, très bien, content que vous vous installiez dans notre ville. Par contre, il faudrait que vous vous inscriviez dans le tissu économique local. Ah oui, j'y compte bien, nous y comptons bien, nous sommes là pour rester, vous savez, monsieur le maire, très bien, très bien, très bien. Et d'ailleurs, à propos de s'installer dans le tissu économique local, vous pouvez nous aider un petit peu? Les commerçants du centre-ville aimeraient bien changer les guirlandes de Noël cette année et mettre une animation Père Noël et Barbe à Papa pour les gosses. Et là, le directeur régional de Carrefour, il te fait, bien sûr, monsieur le maire, on complétera le budget, bien sûr. Très bien, monsieur. Ah, tu les fais raquer, hein. Alors là, tu lui fais cracher la moula. Tu fais, attends, on va arroser tout le monde. C'est bon pour le commerce, c'est bon pour le centre-ville, les machins. Puis dis donc, la rénovation de la rue machin, là. Faudra aider un peu les commerçants, là, ils galèrent, hein. Et s'il dit non, ça fait quoi? Ah bah, ça fait qu'on sera pas copains. C'est pas la peine de revenir me voir dans 2 ans pour demander une extension d'autorisation de circulation de machin, hein. Si on n'est pas copain, on n'est pas copain, hein. Et les bacs à fleurs à la mairie. Ouais, les bacs à fleurs. Et quand le directeur régional rentre, on lui demande alors on a payé pourquoi cette fois-ci? Mais c'est exactement ça. Non, mais en plus, je rigole, mais vous savez que les géants de la grande distribution, la Carrefour, etc., ils ont littéralement des budgets pour ça, hein. Ils ont littéralement des budgets prévus pour participer à la vie associative locale, financer. Vous savez, les matchs de foot de troisième division là, qui sont sponsorisés par Carrefour, par Leclerc, etc. C'est littéralement des budgets qui sont prévus, budgétés par les géants de la grande distribution pour filer un coup de patte à l'association sportive du coin, au commerce local, aux assos, aux trucs. C'est prévu, hein. C'est le budget sponsor et com de toutes les grandes boîtes. Ils ont ça chaque année, une petite caisse comme ça sert à ça. Ça sert à aider, à avoir des bonnes relations avec tout le monde. Le club de cyclisme du coin, ouais, bien sûr. Ça sert à se payer une influence. Bah, ça sert à être bien vu localement, hein. Mais c'est intéressant parce que c'est dans ces moments-là où on peut commencer à poser la question de savoir quelle est la limite entre la corruption et la bonne relation locale classique. C'est pas défiscalisable? Non. Non, je pense pas. Après, souvent, c'est un cercle vertueux quand c'est bien fait. Mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si le Carrefour s'installe et file un peu d'argent pour aider les associations locales à financer leur budget pour les gamins des quartiers populaires et tout, très bien. Enfin, bon, voilà, il n'y a pas d'enrichissement personnel de quelqu'un. Si par contre le Carrefour s'installe et paye la rénovation de la piscine du maire, là on est dans de la corruption. Là il y a un enrichissement personnel d'un élu qui a bénéficié des largesses d'un acteur local, etc. Voire pire, si le Carrefour finance sa campagne, etc. Ça c'est encore pire. Donc vous voyez? Si ça ferme les petits commerçants, c'est pas cool. Ouais, mais c'est pour ça. C'est pour ça que justement, faire de la politique locale, après ça dépend pour qui vous votez, hein, ça j'en sais rien, mais moi, ma vision de la politique locale en tout cas, c'est que si je suis maire d'un endroit et qu'il y a un carrefour qui vient s'installer, je vais faire en sorte que le carrefour finance le maintien des commerces de centre-ville. Alors là, déjà qu'il va vendre des fromages et tout moins cher. Hors de question que le mec, non seulement il s'installe, mais en plus, non, attends, déjà qu'il va se faire du pognon. Donc t'inquiète que je vais le faire raquer au maximum et je vais faire tout ce que je peux avec l'influence que j'ai pour que ça arrose généreusement les commerçants locaux et que ça maintienne une vie dans le centre-ville. Donc voilà, c'est un exemple. Encore une fois, je vous donne un exemple fictif, j'en sais rien, évidemment, il faut contextualiser, là je vous donne un truc un peu en l'air, mais après, bon voilà, chacun fait de la politique comme il veut, vous voyez, la politique locale, c'est ça aussi. Le gouvernement n'a rien dit concernant la cyberattaque dans la Seine-Maritime. Si, il faut que tu regardes mon émission de mardi sur les QAG. Le gouvernement s'est exprimé. Donc voilà, non, j'avais quoi d'autre en tête? Non, mais ouais, je vous parlais des invitations tout à l'heure, les établissements culturels, la mairie, etc. Bon, en même temps, c'est la mairie qui finance, c'est la mairie qui finance la vie culturelle locale, donc c'est quand même normal qu'ils me filent des invites. Ben ouais, non. Est-ce que le maire peut se faire offrir un café par le cafetier du centre-ville? Est-ce que c'est de la corruption, ça? Les commerçants te donnent un billet, tu fais quoi? Ah non, tu refuses. Les maires de petits villages en sueur. Ah bah putain. Dans le petit village, le maire, ça fait longtemps qu'il a pas payé son petit canon du soir. Hein. Roger, comme d'habitude. Petit verre de rouge. C'est une question de volume. Bah, c'est une question de volume et c'est une question de retour. Ça dépend qu'est-ce que tu obtiens en échange, ça dépend. Dans les entreprises privées, c'est souvent une limite au niveau du prix du cadeau. Ouais. Exactement le bar de mon village. Enfin, en même temps, j'ai envie de te dire, le bar du village, enfin, ça dépend de la taille du village, mais enfin, c'est assez souvent le seul endroit où se retrouve tout le monde. Enfin, c'est. On est collectivement autour du barman et du cafetier. Maire, pas maire. En général, c'est le cafetier et le maire lui-même. Hein, donc, tu vois. J'avais connu un village comme ça où le maire il dit je suis désolé je dois fermer parce que là je vais à la préfecture j'ai une réunion. What the fuck? Alors désolé c'est le bordel parce qu'en fait je suis maire aussi enfin bref. Mais je reviens tout à l'heure je réouvre. Hein. On est dans le relationnel. Merci Kevin pour ton prime. Bar du village c'est un lieu associatif. Bah oui, enfin c'est quand même le statut du bar est pas associatif, j'ai envie de te dire, il gagne tellement peu d'argent qu'on est pas, on est pas trop loin de l'association. Hein. C'est vraiment. C'est une entreprise à but lucratif sans aucune lucrativité. Les bars deviennent un tiers-lieu. Ouais, je sais, moi j'avais des potes qui m'avaient dit que chaque année, ils se cotisaient pour envoyer du pognon au café justement au bar du village pour l'aider à boucler son budget de l'année. C'est parce que de toute façon, en fait, c'est le bar du village, c'est un pote qui le tient, on le connaît, c'est un ami. On connaît très bien l'argent qu'il y a dans la caisse, surtout l'argent qu'il n'y a pas dans la caisse. Et on sait très bien qu'à la fin du mois, le mec, il est à deux doigts de mettre la clé sous la porte tous les ans. Donc évidemment, chaque année, on envoie un petit bifton. C'est littéralement du soutien à la vie locale. En disant, bah, en fait, c'est dans l'intérêt de personne que le bar y ferme. Donc, au lieu de cotiser du pognon, ils ne peuvent pas consommer directement. Bah, ils le font. Ah non, ils le font le reste de l'année. Hein. Et si le bar meurt, le village meurt. Mais ouais. C'est pour ça que les maires se battent contre les fermetures de classes, les fermetures de bureaux de poste, de maternité, etc. C'est parce que c'est toute la vitalité territoriale qui s'effondre. C'est aussi dur de tenir un bar. Ah bah, dans les zones reculées, je te laisse faire les maths tout seul, hein, mais il faut en vendre, hein, des petits verres de rouge ou du pastis ou des cafés. Pour réussir à rentrer dans ton budget à la fin de l'année. Ouvert de 7h à 22h. Ouais, non, mais enfin c'est. C'est pas des mojitos à 20 balles. Ouais. Non, c'est pour ça, tu vois, quand on parle d'entreprise à but lucratif, oui, ça dépend lesquelles. Hein. Le bar du village, oui, c'est une entreprise, mais enfin bon. Ça ressemble plus à une assoce qu'à une entreprise, quoi. Le mec. Tabac plus bar, ça doit déjà être mieux. Pareil, il faut avoir des clients. Hein. Faut que les clients y viennent. Hein. C'est pas. La facture du bar actuellement en plus. Ah bah ça. Si t'as un four au gaz. Le bar PMU, épicerie, relais colis, bienvenue à la campagne, bah oui. Oui, bien sûr. Évidemment. Je pense pas que la marge soit énorme sur les clopes. Je pense pas non plus. Je sais pas. Non, c'est vrai, je connais mal d'ailleurs les débitants de tabac, à quel point ils réussissent à gagner du pognon. Je sais pas, je connais pas. Est-ce que tu peux passer ton bar en assaut pour avoir des aides? Si tu calcules bien ton coût, il y a moyen que les comptes restent réglo. Ouais, mais les aides, c'est pas la panacée non plus, hein. Je suis élu, je vis dans les Yvelines. Eh ben bravo à toi, t'es élu de quelle ville dans les Yvelines? C'est cool ça. Ouais, enfin c'est pas parce que tu passes en assaut que les aides vont pleuvoir du jour au lendemain, hein. Faut que tu développes un projet culturel, local. Il faut que la mairie soit contente, que le département file du pognon. Et puis c'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les ans non plus. C'est pas chiant un bar en assaut rapport aux licences de vente d'alcool? C'est une bonne question, tiens. Je sais pas. Est-ce que tu as le droit de verser un salaire si ton bar est une asso? Tu n'as pas le droit d'être président d'une asso et de te verser un salaire. Ça, c'est interdit. Donc il faut que tu trouves quelqu'un qui accepte d'être président de l'asso. Et responsable, en fait, légal de l'asso. Et toi, tu peux être salarié de l'asso. Mais voilà, enfin, je veux dire, pour obtenir une. Moi, je me suis chargé des subventions, donc je recevais des dossiers de demande de subventions, je faisais des entretiens avec les assos pour discuter, je faisais des appels à projets associatifs et tout, donc je connais un peu le sujet. En plus, j'ai été associatif par le passé, donc je sais très bien comment ça marche dans l'autre sens. Une demande de subvention, c'est pas juste bonjour, on voudrait boucler le budget parce que sinon on va crever, est-ce que vous pouvez nous aider? Bon, bah ça, tu peux les aider un an, mais enfin, si votre budget il est bancal tous les ans. Si on n'est pas là pour maintenir à flot le truc, il faut que vous développiez un projet cool, il faut que ça ait du sens et que du coup les objectifs d'intérêt général de la mairie ou de la région ou du département s'y retrouvent. Donc voilà, il faut que tu crées un projet éducatif, bio, circuit court. Éducation pour les gosses, atelier pour les personnes âgées. Enfin, après, vous pouvez être méga créatif, hein. Vous pouvez être méga créatif, vous pouvez inventer plein de trucs. Et là, éventuellement, si ça rentre bien dans les cases et tout, et que les élus sont contents et que ça va dans le sens de ce qu'ils veulent promouvoir dans le territoire, oui, vous pouvez toucher des subventions, bien sûr. Après. Disons que le bar associatif qui faisait de l'activité culturelle internationale d'amitié entre les peuples dans le centre-ville de Béziers, bah autant vous dire qu'il a perdu ses subventions. Et ouais, c'est ça la politique locale. Bah d'ailleurs, Ménard, il a fermé l'antenne du Secours Populaire. Voilà. Merci, le Ricard, c'est fantastique pour ton prime. La magouille. Non, non, c'est pas de la magouille. Non, non, c'est pas de la magouille, c'est de la politique. C'est littéralement de la politique. Il a pas fermé, il a juste coupé les finances. Ok. Bah tant mieux pour eux s'ils ont réussi à pas fermer. Mais c'est ça faire de la politique. Si vous avez un maire du Rassemblement National, vous pouvez être sûr qu'il va arrêter de financer, il va arrêter de donner des subventions à des associations qui font des trucs antiracistes, pour la culture contemporaine, les animations pour les jeunes, pareil, en général, ils ferment. Et à l'inverse, si vous avez une mairie communiste, il y a peu de chances qu'ils participent au financement de votre pièce de théâtre sur le thème de Molière et de Louis XIV, le rayonnement de la France. C'est de la politique. C'est quoi la différence avec le clientélisme? Clientélisme, c'est pas tout à fait pareil. Le clientélisme, c'est arroser des portions de population en échange de vote. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. On va parler de développement du logement. Un élu communiste, il va favoriser le développement du logement social dans sa ville. Un élu de droite, il va favoriser le développement d'investissements, d'accession à la propriété dans sa ville. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que l'élu communiste, il fait ça par conviction? Parce qu'il veut le développement du logement social pas cher et accessible? Ou est-ce qu'il le fait par clientélisme? Parce qu'il sait que les gens qui vont habiter dans le logement social ont plus de chances de voter communiste. Même question pour l'élu de droite. Est-ce que tu crois qu'il fait ça par conviction? Parce qu'il croit à la propriété individuelle et au mérite, etc. Ou est-ce qu'il fait ça par clientélisme? Parce qu'il sait que c'est du coup les gens qui accèdent à la propriété, c'est plutôt des gens qui vont voter conformément à ses valeurs. Et bien là, ça repose la même question que celle dont on avait déjà parlé l'autre jour. C'est est-ce que vous croyez que les politiques sont des gens cyniques ou c'est des gens de conviction? Et ça, c'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas de qui on parle. Ça dépend des élus, ça dépend pourquoi, ça dépend pour qui. Les deux peuvent très bien marcher ensemble. Parfois, ta conviction, parfois, mettre en œuvre des politiques publiques conformes à tes convictions va t'aider électoralement. Parfois, c'est l'inverse. Et ça existe aussi. Ton XP fait que tu tends vers quoi? Moi, plutôt vers la conviction. Je crois à la conviction des élus. Je pense que les élus, quand ils mènent des politiques publiques, c'est qu'ils y croient. Sincèrement, hein, ils pensent que c'est bon, que c'est d'intérêt général de développer une vision, machin, etc. Je pense que Patrick Balkany a énormément développé le Valois-Perret dans une direction qui est celle des ensembles immobiliers d'accession à la propriété, parce qu'il y croit, parce que c'est sa lecture politique des choses, il souhaite, il soutient. Les gens qui achètent leur logement, qui sont propriétaires, etc. Et il se trouve que les gens qui sont installés à Levallois pendant des décennies, ce sont des jeunes cadres qui votent plutôt à droite. Ça tombe bien, c'est Balkany le candidat. Et les personnes âgées, pareil, etc. Je pense que quand Balkany il met en place de la police municipale et de la propreté dans le centre-ville de Levallois, etc., c'est pas par clientélisme pour avoir des voix. C'est aussi parce qu'il croit, à titre personnel, il a des convictions politiques en faveur de la sécurité du quotidien, en faveur de la lutte contre la délinquance, etc., etc. Et ben de la même manière, je pense qu'un communiste dans sa ville, il développe le logement social parce que parce qu'il a des convictions solidaires pour que le logement soit un droit pour tous, pour que les plus précaires puissent avoir un toit sur la tête, que s'il fait des ateliers interculturel dans la maison des jeunes et de la culture de la ville, c'est pas seulement pour faire du clientélisme auprès des antiracistes de la Circo, hein, c'est aussi parce qu'il y croit, que c'est ses convictions profondes. Après, le Valois est la ville la plus entêtée de France, donc c'est pas vraiment une volonté politique davantage du clientélisme. Ouais, mais ça, il s'en fout, parce que de toute façon, les rentrées fiscales de Valois sont tellement énormes qu'il peut se permettre d'être très endetté. Puis tu peux faire du clientélisme sans avoir d'endettement, hein, c'est pas le sujet. C'est pas parce que c'est pas ta conviction profonde que tu vas pas parler, que tu vas pas penser en calcul électoral aussi en même temps. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que là, encore une fois, là, je vous donne des exemples où il se trouve que les convictions politiques sont alignées avec l'intérêt électoral. Mais parfois, c'est l'inverse. Parfois, ta conviction politique profonde te fait te tirer une balle dans le pied électoralement. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je vous pose la question. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au carton? Tu perds les élections? Tu pars avec les honneurs, avec la fierté de te dire au moins j'ai été fidèle à mes convictions? Je suis écolo et je me sers de mon pied comme passoire. Pourquoi? Hein? Emmanuel Macron, quand il met en place une politique économique libérale favorisant les grosses entreprises, conviction ou cynisme? Ah bah, totale conviction, Emmanuel Macron. Bah, tu peux pas. Autant je vois bien le principe en théorie, mais il y a des exemples en pratique d'élus qui s'est tiré une balle dans le pied comme ça. Ouais, à peu près tous les élus écolos. Ah, l'écologie, c'est un très bon exemple. Excellent exemple, l'écologie. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Il y a des gens dans le chat qui disaient ouais, les décorations de Noël, ça pollue. Ok, d'accord, très bien. Vous êtes écolo, vous devenez maire de votre ville demain. Est-ce que vous supprimez les décorations de Noël? C'est conforme à vos convictions? En échange de quoi, vous allez vous mettre à dos toute l'association des commerçants? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, c'est un exemple. Ouais, les enfants qui vont être tristes et tout, qui vont dire bah, pourquoi il n'y a pas les décos, pourquoi il n'y a pas le Père Noël cette année dans le centre-ville, machin, bah, parce que le maire a décidé de le supprimer parce que ça pollue. Cet exemple, c'est un exemple très concret de politique très concrète au niveau local où on pose la question de jusqu'où vous êtes prêt à aller dans vos convictions. Tu fais un compromis, moins de décor, déco moins gourmande. Ben ça, c'est pour ça que je vous pose la question à vous, et je vous force à y réfléchir, parce que c'est exactement le genre de question que vous vous posez quand vous êtes élu. Et moi, j'en suis, oui, je suis comme toi. Moi, j'irai voir l'association de commerçants et je discuterai avec eux pour essayer de trouver un truc qui consomme moins d'énergie et qui est tout aussi joli. Donc, on pourrait imaginer des lampions, des bougies, enfin, j'en sais rien, on peut. Whatever. On fait faire des lampions par les enfants de l'école. On les met dans la rue commerçante et on fait une inauguration avec tous les commerçants et tout et on offre des bonbons aux enfants. C'est chouette ça. Tout le monde est content. Atelier papier crépon dans les écoles. Les commerçants, ils ont leur vitalité locale. Les enfants, ils sont contents. Tout le monde est content. Qui finance les lampions? Oh, on va bien trouver une queue de budget. De toute façon, c'est la mairie qui finance le papier crépon, parce que c'est eux qui s'occupent de l'équipement des écoles. Donc voilà, c'est là typiquement, je vous ai donné un exemple parmi un milliard de décisions politiques locales où tu mets en conflit tes convictions, ton idéal de conviction avec l'effet que ça va avoir sur les gens. Et tu peux te poser la question. Pareil, faut-il mettre en place une taxe carbone pour baisser les émissions de gaz à effet de serre? Ça, c'est une question qu'il faut poser avant le mouvement des Gilets jaunes et après le mouvement des Gilets jaunes. En général, ça change un peu de. Ah ouais. Ouais, non, non, c'est vrai que c'est important la planète, mais bon. Pouvoir d'achat, tout ça. Ouais. L'écotaxe, pareil. Même temps, est-ce que les décorations de Noël ne vont pas à l'encontre de la laïcité? Vraie question. La réponse est non. Noël n'est une fête religieuse que pour celles et ceux qui la célèbrent comme telle. Les 110 km/h. Tiens, les 110 km/h, très bon exemple. Les 80 km/h ou les 110 km/h? Excellente question. Excellent sujet. Réduire la vitesse de circulation des automobiles sur les routes départementales à 80 km/h. C'est bon pour la planète et pour la réduction de la mortalité des accidents de la route. Inconvénient, tu te mets à dos tous les élus locaux, toutes les personnes âgées, tous les, enfin bref, tous les automobilistes. Qu'est-ce que tu fais? Pareil pour les 110 km/h. Réduire à 110 km/h la vitesse sur les autoroutes. Tu te mets à dos. C'est bon pour la planète, mais tu te mets à dos tous les automobilistes. Et les élus locaux qui vont s'y mettre, etc., qui vont gueuler, machin, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. La fumée dans les lieux publics, ouais. L'interdiction du tabac dans les lieux publics, dans les bars et les restaurants. C'était une décision de Xavier Bertrand, ça, qui a mis ça en place quand il était ministre de la Santé. Ça, c'est juste normal, meilleure décision. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque. Comment c'était? C'était le 1er janvier 2007, je crois, ou 2006. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la bronca que ça a été. Ça avait gueulé, mais d'une force. Tous les JT, tous les soirs, des sujets en direct depuis tous les bars tabac de France, avec tous les témoignages des Français qui disaient touche pas à ma clope, ils nous emmerdent le gouvernement, ma liberté, ma cigarette, etc. Oh putain. Il a fallu du courage politique hein, pour la porter ce truc-là, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Ça a été très très dur. Il y avait un cafetier qui s'était mis en grève de la faim, je me souviens. Qui menaçait de mettre fin à ses jours et tout machin. Non, non, c'est. Donc voilà, donc 130 km/h sur les routes, 110 km/h. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Les bistrotiers ont hurlé, c'était l'enfer, bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'ai bossé pour la ministre de la Santé au moment où on a mis en place le paquet neutre, le paquet de cigarettes neutre. Pareil, hein. Oh, l'association des buralistes dans toutes les matinales de radio. Qui expliquait à quel point on était en train de tuer le petit commerce. On était en train de tuer les centres-villes. On était en train de. Les socialistes sont en train de tuer. C'est tout un mode de vie imposé par des bobos parisiens qui n'y comprennent rien. On veut aseptiser le monde, machin. Oh là là. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, hein? Alors que Jean représentait 50% de la conso française. L'abaissement du taux d'alcoolémie dans le sang de 0,8 à 0,5. Ouais, c'était en quelle année ça? C'était pas Chirac en 2002, un truc comme ça? C'était dans les priorités, je crois, de Jacques Chirac sur la réduction de la mortalité sur les routes, les grands plans sécurité routière. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On réduit l'alcoolémie au volant de 0,8 à 0,5. Hurlement. Comment? Mais enfin, vous vous rendez compte? C'est un art de vivre français que l'on assassine. C'est toutes nos campagnes qui se meurtrissent. Les viticulteurs qui ont fait des manifs. Non, non, je vous donne des exemples un peu caricaturaux parce que c'est marrant de regarder ça avec la distance critique. Mais quand on se souvient de l'hystérie que ça a été sur le moment, on se dit, ah ouais, quand même. Donc voilà, vous voyez, c'est ça, mener des combats politiques parfois. le taux d'alcool limite pour la chasse. Donc voilà, donc en fait, quand vous menez des réformes en politique, quand vous changez les choses et tout, il faut toujours. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup vécu ça pendant la campagne présidentielle en 2022. Moi, je voyais beaucoup de gens qui avaient des idées comme ça, qui disaient, ouais, faudrait qu'on mette ça en place et tout, machin. Toujours des bonnes idées, hein, c'est pas le sujet. Il y a toujours plein de convictions et pavés de bons sentiments. Le truc, c'est que moi, je fais partie des cyniques qui comme j'ai bossé en politique, je vois tout de suite ce genre d'opposition que ça va soulever. Donc, je me rends compte qu'il y a des trucs qui, sur le moment, t'as l'impression que ça va bien se passer, mais en fait, dans le monde des idées, ça a l'air chouette, ça a l'air évident même. Mais alors, par contre, je vois gros comme une maison que ça va aller au carton, que ça va être d'une violence inouïe, que ça va être toutes les chaînes d'information en continu, H24 sur le sujet. Tous les entrepreneurs de la fake news en permanence sur Twitter qui vont faire des gains, exploser leur nombre d'abonnés, etc. Les youtubeurs qui vont cartonner en expliquant qu'ils sont contre et tout. Enfin, c'est ça, faire de la politique. Le mariage pour tous, très bon exemple, le mariage pour tous. Super bon exemple. Mariage pour tous, la société est prête, la France va adopter le mariage homosexuel, ça va bien se passer, etc. Les plus grandes manifestations qu'on n'avait pas vues à Paris depuis plus de 10 ans. La réforme des rythmes scolaires, pareil. Ça va bien se passer, ça va dans le bon sens et dans l'intérêt des enfants. Manif de profs dans toute la France. Tiers payant généralisé, manif de médecins dans toute la France. Donc il y a plein de trucs comme ça. Un sport national. Non, je suis pas en train de. Attention, faut pas méprendre mes propos. Je suis pas en train de dire que les Français sont. Arrête pas de râler, les Français font grève, les Français manifestent tout le temps. Non, c'est pas ce que je dis. Au contraire, je fais plutôt partie de ceux qui trouvent qu'on est un chouette pays pour cette raison-là. Justement, on se politise et on se saisit des trucs et on dit ce qu'on pense. Je dis juste, faisons. Le réalisme en politique, c'est pas qu'une mauvaise nouvelle, c'est aussi anticiper ça, la dureté de la réalité de l'exercice du pouvoir. Il y a des trucs qu'il va falloir négocier. Tu vois, c'était pendant la présidentielle. Je me souviens, tiens, par exemple, un sujet sur lequel j'avais travaillé, je me souviens très bien, c'est pour lutter contre les déserts médicaux, il faut prendre des mesures coercitives et obliger les médecins à s'installer en zone rurale. Ça, c'est une phrase qui est très facile à dire. Très, très facile à dire. Tu peux même la dire en meeting. Tu peux même récolter des applaudissements de la part de toute la foule. Ouais, bah, j'aimerais bien voir le ministre de la Santé qui osera mettre ça en place. Et surtout qui osera en assumer les conséquences. Est-ce que vous êtes prêt à avoir des manifs de médecins en blouse blanche tous les jours devant le bureau du ministère? Tous les étudiants en médecine qui se mettent à bloquer les facs de médecine, etc. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là? Je connais aucun ministre de la Santé. Je connais que des candidats qui disent ça un peu facilement. Je connais aucun ministre de la Santé capable de le faire. Aller au carton avec les médecins, c'est y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Les médecins, les pompiers. C'est les corps de professionnels que t'as vraiment pas envie de t'enquiller. Alors ça, si tu veux faire plonger ta cote de popularité, t'empêcher de gouverner, etc. C'est pas en discussion justement? Non, pas la coercition. Ce qui est en discussion, c'est les mesures incitatives. On parle même pas des flics. Ouais, les flics, bah, très bon exemple. Bah, voilà, regardez Castaner. Manif de flics. La trouille. La trouille. Par contre, les profs, on peut les lire, il n'y a pas de souci. Bah non, regarde, ça a coûté son poste à Vincent Payon. Vincent Payon, il avait mal calculé la réception par les enseignants de sa réforme du périscolaire. Manif de profs dans les rues tous les jours, non à la réforme, non à la semaine de 4 jours. De 4 jours. De 4 jours et demi, pardon. Donc, banderole aux fenêtres des casernes et tout. Ouais, non, non, c'est. Donc, c'est pour ça que moi, je peux pas m'empêcher d'avoir ce regard-là sur la vie politique. Je peux pas m'empêcher quand j'entends des candidats dire des trucs sur des plateaux télé ou dans des meetings. Ouais. Non, c'est joli. Sur le papier, ça a de la gueule. On verra. Bon courage. Alors, vraiment bon courage. Ok. Ce qui est en discussion, c'est une année de plus de formation qui revient à mettre des internes en médecine dans les campagnes qui feraient le travail d'un médecin avec un salaire inférieur au SMIC horaire. Ah, c'est ça dont ils sont en train de discuter sur la réforme de. Ah oui, j'avais entendu parler de ça, ouais. Ok. Je me rappelle de l'affaire Leonarda, typiquement. Ouais. Je crois que tout le monde se dit ça. Non, pas tout le monde. Enfin, chacun a sa manière de voir les choses, hein. J'ai pas de problème avec ça. Tu penses quoi de l'histoire du bracelet du cadre de l'armée ukrainienne? J'en ai absolument rien à foutre. Tu crois qu'il y a des trolls chez eux aussi? Genre, tu penses que ça va bien se passer? Ouais, t'inquiète. Ouais. Peut-être. Et encore une fois, je n'ai que de l'admiration pour les personnes qui vont jusqu'au bout de leurs convictions et qui assument politiquement leurs convictions au risque de lutter contre parfois des réactions très hystériques, quoi. Typiquement le mariage pour tous. Il fallait du courage à Taubira et à Bertinotti à l'Assemblée pour lutter contre la pression qui était sur leurs épaules à cause des manifestations et de l'opposition parlementaire. C'est un exemple. Merci, Benjamin Darsu, merci. T'as regardé l'épisode d'Usul sur Chaban Delmas? Ouais, je l'ai regardé, il est vachement bien. Vachement bien l'épisode, hein. Le PAX, ça avait été pareil. Ouais, le PAX, ça avait été pareil. Bordel, le PAX. En vrai, il n'y a pas juste à attendre que les manifs se calment. Je recommande pas. Disons que si t'étais président de la République et que j'étais ton conseiller, je te glisserais à l'oreille. Va falloir faire un truc là quand même. La technique des bras croisés, elle est pas ouf, elle est pas ouf. Ça peut fonctionner en vrai. Alors jouer la montre, ouais, ça peut fonctionner. Il y en a qui ont essayé par le passé. Genre on attend l'hiver. Les grèves de 95 et tout, on attend l'hiver. Les gens vont avoir froid, ils vont arrêter de manifester. Non, ça marche pas. La stratégie du pourrissement, c'est pas ouf. Excusez-moi, je regardais mes notifs. Quelle heure il est? Non, c'est bon. Le mouvement contre le CPE, vous vous en souvenez? Ouais. Les gilets jaunes en début d'hiver, ça prendra jamais. Ouais. En plus, il n'y a aucun syndicat derrière eux. On ne sait pas qui c'est des pages Facebook. Voilà. Peux-tu expliquer comment fonctionne le 49.3? Salut, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo spéciale qui t'explique. Ça a lâché 17 milliards au premier jour. Ouais, les gilets jaunes, oui, ça a lâché 17 milliards dès le mois de décembre, je crois. 2018. Ouais. C'était un sénateur communiste que j'avais interviewé qui m'avait dit, putain. Les gilets fluo, là, ils ont réussi à obtenir plus que nous en 10 ans. En 2 semaines, ils obtiennent plus que nous. Putain, il lâche vite Macron. Hein. Ouais, c'était juste avant Noël. Les 17 milliards de mesures sociales, ouais, je m'en souviens. Qu'est-ce qui a eu raison des gilets jaunes? Les élections européennes, avec le succès relatif d'Emmanuel Macron. L'incapacité du mouvement à se transformer. Le mouvement de la réforme des retraites, contre la réforme des retraites qui est venu se greffer dessus. Et ensuite, on arrivait sur le Covid et les municipales. Mais je suis pas d'accord avec vous pour dire que c'est le Covid qui a eu raison de la fin du gilet jaune. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la seule raison. Le mouvement des gilets jaunes était déjà à un état de léthargie très avancé, hein. Très très avancé. Enfin, je me souviens, j'étais sur le plateau d'LCI, on était en direct, il y avait quelques milliers de manifestants à Paris. Ça n'avait pas fonctionné, hein. Le grand débat aussi a bien contenu le mouvement. Ouais, le grand débat. La répression des manifestations, effectivement, les gens avaient peur d'aller en manifestation, donc ça aidait pas beaucoup. Mais ça, on parle des manifestations dans les grandes villes, la répression des manifestations dans les grandes villes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était aussi un mouvement local sur les ronds-points. Et la vitalité des ronds-points, elle avait déjà disparu depuis un bout de temps, hein. Merci, V. Freeman 98. Donc non, 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 le mouvement des Gilets jaunes était déchiré de divisions en interne, sur les suites à donner. Il y avait eu des expérimentations éventuellement déposer une liste aux européennes, mais c'était mal passé. Il y avait les différents visages des Gilets jaunes qui s'engueulaient par vidéo interposée aussi. Drouet contre Nicole, etc. C'était complexe. La fatigue aussi, hein. La fatigue des manifestants, c'était pas facile pour eux. Travaillant dans le transport routier à l'époque, je confirme que les blocages locaux s'étaient bien épuisés avant le Covid. Oui, non, non, les blocages d'axes routiers, etc. C'était vraiment au début que c'était le plus impressionnant. Ça a repris un peu au printemps en 2020, en 2019, pardon. Mais ensuite, le mouvement des Gilets jaunes, c'était vraiment les manifestations du samedi. Le lynchage médiatique, c'est une question de point de vue, parce que le mouvement des Gilets jaunes était quand même méga présent dans les émissions de Cyril Hanouna. Ils étaient en couverture intégrale de toutes leurs manifestations le samedi sur toutes les chaînes d'info. Ils faisaient d'excellents scores sur Internet. Ouais, mais ça donnait pas envie de les rejoindre. Ah bah ça c'est ton point de vue. Non, non, après, je dis pas que tout le monde à la télévision les trouvait formidables et les soutenait. Il y a évidemment des éditorialistes qui disaient du mal du mouvement des Gilets jaunes, etc., et des analystes, etc., bien sûr, évidemment. Mais j'ai connu des. Enfin, on connaît des mouvements sociaux qui sont autrement plus lynchés que le mouvement des Gilets jaunes. Enfin, regardez les grèves dans les raffineries en ce moment. Les grèves des cheminots à la SNCF, ils sont plus habitués à ce qu'on peut appeler du lynchage médiatique. Que les gilets jaunes. Le Monde avait fait des articles sur les actes gilets jaunes alors que même nos jeunes n'étaient pas arrêtés le comptage. Ouais. Les profs s'en prennent régulièrement plein la tronche aussi. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend des mobilisations des enseignants. Après, les cheminots, il y a zéro suivi, ils font grève tout le temps, on sait jamais ce qu'ils obtiennent, et des fois on se demande si c'est pas une sorte de jeu un peu chiant. Non, ils font pas grève tout le temps déjà. C'est jamais ce qu'ils obtiennent, la plupart du temps pas grand-chose. C'est aussi peut-être pour ça. Je prends le TER pour aller bosser, personne n'en prend plus plein la gueule que les cheminots, l'enfer des commentaires dans le train. Encore une fois, ça dépend qui on écoute. C'est toujours pareil. Je me doute que les passagers des trains râlent contre les grèves, je veux bien le croire. Après, il y a aussi des médias qui donnent la parole aux représentants syndicaux des cheminots, il y a aussi des gens qui les soutiennent et qui les défendent et qui... Je suis cheminot, je vois les collègues qui font grève et qui n'obtiennent rien. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, ouais. Pour ça, quelqu'un qui me dise on sait jamais ce qu'ils obtiennent, je pense qu'ils n'obtiennent pas grand-chose. C'est pour ça que vous savez pas ce qu'ils obtiennent, c'est qu'en fait ils obtiennent rien. Pour l'avoir été, faut pas croire que c'est le sport national dans la boîte, c'est assez faux. Mais oui, en plus je suis d'accord avec toi, c'est. Les grèves des cheminots, c'est très visible, évidemment, bien sûr. Les retards, etc. La quantité de gens impactés est importante. Mais c'est pas pour autant une profession qui fait plus de grèves que les autres en moyenne. Je crois même qu'il y avait des stats qui avaient été faites qui montraient que franchement les cheminots, pas les pires, hein. En termes de nombre de grèves, d'intensité et tout. Il y a des mouvements de grève très célèbres des cheminots qui ont duré longtemps. Enfin longtemps, ça peut être quelques semaines. Il y a des mouvements de grève de cheminots avant Noël qui marquent plus les esprits parce que oh là là, est-ce que je vais pouvoir aller fêter Noël en famille ou pas? Qui sont les pires alors? Je sais pas, j'en sais rien. En même temps, c'est des secteurs stratégiques, ça se voit direct. Ouais, oui. Enfin, stratégique, je sais pas si c'est stratégique, mais c'est comme les raffineries. Tu vois, les raffineries de pétrole, elles sont bloquées quelques semaines et ça suffit à mettre une pagaille énorme. C'est sûr que les grèves dans les écoles, ça met moins la pagaille. Bon, c'est chiant pour les parents qui doivent se démerder pour faire garder les gosses, mais en vrai, on trouve des solutions et on roule, quoi. Grève dans la santé avec les réquisitions, tu vas pas forcément. Ouais, c'est vrai. Grève à l'hôpital, ouais. Oui, grève à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital pour se rendre compte qu'il y a une grève à l'hôpital. Je pense que la majeure partie de la population a la chance de ne pas fréquenter l'hôpital quotidiennement. Les maisons de santé déjà un peu plus, les cabinets de médecins encore plus. Salut Jean, je commence mon boulot de bibliothécaire public demain et j'aimerais me spécialiser dans les animations auprès des jeunes. Est-ce que tu as des idées d'animation autour de l'éveil, l'éducation à la politique? Non, tu peux dire aux enfants, tu peux faire des ateliers pour faire écrire aux enfants des discours politiques, pour faire des débats politiques, pour faire des fausses élections, tu peux faire dessiner des affiches de campagne. Là, je parle des jeunes enfants, hein. Tu as des animations un peu sympas comme ça sur les jeunes enfants, sur. Tu as des trucs cool? Et pour les plus grands, pour les ados, les débats, ça marche bien en général. Tu présentes ça comme un jeu ou un peu un jeu de rôle, un truc comme ça, où les jeunes doivent défendre des opinions, trouver des arguments et tout, ça marche assez bien en général. Bon, voilà. Comparaison d'articles de journaux. Ouais, alors tu peux faire de l'éducation aux médias aussi, ça marche bien. Tu regardes avec eux un journal télévisé et tu leur fais prendre des notes et tu leur fais analyser ce qu'ils ont vu. Leur faire colorier leur carte d'électeur pour les tout petits, c'est efficace. Ouais. Tu peux leur faire dessiner des moustaches sur les affiches électorales. C'était Quotidien de Yann Barthès qui avait fait ça. Je sais pas si vous vous souvenez. En vrai, c'était très très drôle. Ils étaient allés, ils avaient pris des enfants qui devaient avoir 7-8 ans, hein, vraiment des petits. Et ils les avaient mis devant les panneaux électoraux, tu sais, devant un bureau de vote, qui était en plus leur école. Le bureau de vote, c'est l'école maternelle, l'école primaire. Et ils avaient demandé aux enfants, alors, est-ce que vous pouvez nous décrire les affiches? Qu'est-ce que vous voyez? Et là, tu voyais les enfants qui regardaient les affiches, et c'était si drôle. Les petits enfants qui disaient, lui, il est vilain, pas beau. Et quoi, la caméra, elle filmait, c'était un candidat à LFI avec sa moustache. Et elle est belle. Elle filmait, c'était Marine Le Pen avec ses cheveux blonds. Elle a des cheveux de princesse. Ouais, Marine Le Pen. Et les enfants, c'est qu'ils commentaient toutes les affiches comme ça. Et c'était si mignon. Oui, les chats, mais oui, oui, et les enfants, leur affiche. Alors, c'est quoi votre affiche préférée, les enfants? C'est celle-là. Et tous les enfants, ils étaient d'accord. Évidemment, c'était le parti animaliste parce qu'il y avait un petit chat sur l'affiche. C'était trop mignon. La joie de l'insouciance. Ah, c'est mignon, les petits. Hein. Ils savent pas encore. Je sais plus quand ils avaient diffusé ça, mais qu'est-ce que c'était drôle. Je crois en 2017, je crois. Il y a des adultes qui votent de la même manière. Ah oui, 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 il y a des adultes qui votent de la même manière, c'est vrai. Ah non, mais ça, c'est hyper marrant. Quand on analyse les comportements électoraux, les gens qui font de l'analyse électorale le savent. Il ne faut pas toujours postuler la rationalité des choix. Hein. Chacun a ses raisons. Et il y a des gens qui votent pour des candidats pour des raisons qui tiennent à une forme de ce qu'on pourrait appeler de l'irrationnel politique. C'est-à-dire, il y a des gens qui votent au faciès. Ma grand-mère, une fois, m'avait dit « J'ai voté pour un candidat que je trouvais qu'il portait bien. Je trouvais que son sur l'affiche, il était beau garçon, il portait bien. Il avait l'air sérieux. » Mais vous vous souvenez comment il s'appelait? Non, je ne sais plus. Vous vous souvenez du parti politique? Non, je ne sais plus. J'ai oublié. Bon. Feu, ma grand-mère a voté pour Chirac car c'était un bel homme. Mais ouais, mais plein, plein, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, il y a plein de raisons. Il y a des gens qui effectivement votent au faciès. Il y a des gens qui votent parce qu'un seul sujet les intéresse. Un seul. Moi, je me souviens. Bah, mon premier vote quand j'étais jeune, c'était en 2007 pour les présidentielles. Et j'avais un pote qui savait pas du tout pour qui voter. Il se dirigeait vers un vote Sarko, mais sans trop savoir. Il allait voter Sarko. Bof. Il s'en branlait. Je crois que ses parents votaient Sarko. Enfin bref, lui il partait dans cette direction-là, mais il s'en foutait un peu, quoi. Et le lendemain du premier tour, je lui dis, alors, t'as voté pour qui? Il me dit, ah, j'ai voté pour José Bové. Ah bon? Pourquoi? Il me dit, non, parce que j'ai vu hier soir qu'en fait, c'est le seul qui défend la légalisation du cannabis. Je dis, oui, effectivement. Oui, ah bah si c'est un sujet qui t'intéresse, effectivement, c'est oui, il vaut mieux voter Bové que Sarko, effectivement. Et bon, bah voilà, tu vois. Et alors, comment tu veux l'analyser, ce comportement électoral-là? Le mec, on lui aurait posé, un sondeur lui aurait posé la question 2 mois avant la présidentielle, vous allez voter pour qui? Il aurait répondu, bon, Sarko. Puis finalement, il a voté Bové. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Le grand écart, ouais, ouais, ouais. Mais parfois, ça peut être super surprenant. J'en discutais avec une copine qui me disait que sa grand-mère, qui a toujours voté à droite, voire l'extrême droite depuis toujours, s'était laissée séduire et convaincre par sa petite-fille, qui est écolo. Et du coup, elle l'a appelée après la présidentielle pour lui dire « Ma chérie, je voulais te dire que j'ai voté comme tu m'as... J'ai voté écolo. Tu m'as convaincu, c'est bien, c'est important. Ah oui, non, pour les jeunes, et puis pour l'avenir, et puis la planète quand même, et tout. » Voilà, comportement électoral totalement irrationnel d'une personne qui a toujours voté d'une certaine manière. Donc tu peux raisonnablement te dire qu'elle va continuer à voter de cette manière, et là, pouf, ça devient une voix écolo. En vrai, tant mieux. Ah non, ça, j'en sais rien. Je. Ce que vous voulez. Ça existe dans l'autre sens aussi, hein. C'est pas forcément irrationnel. Non, c'est pas. Irrationnel, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est imprévisible, quoi. C'est surprenant. Mais tant mieux. Enfin, après, c'est un parcours de vie. Les gens changent, les gens évoluent. Les gens votent d'une certaine manière, puis le regrettent, puis disent j'aurais pas dû. Enfin, c'est pas que j'aurais pas dû, mais j'ai été déçu. C'est normal d'être déçu par les gens pour qui on a voté et qui se sont retrouvés au pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Hein. Pourquoi vous croyez qu'il y avait un engouement pour Mitterrand en 81 et qu'arrivé au début des années 90, on était en plein dans les années fric et la droite a fait les plus bons scores de son histoire? L'ambiance avait changé. C'était plus à la mode, les socialo-communistes. Peut changer d'idée aussi. Ouais, on peut changer d'idée. Après, je dis ça, voilà, il y a des gens qui, y a des gens qui votent. Non, je voulais dire quoi? Beaucoup de gens pendant Sarko Royal ont voté Sarko car c'est un homme, même s'il était de gauche depuis des années. Ah, même si les personnes étaient de gauche depuis des années. Oui, parfois c'est ça, t'as de la misogynie, t'as du racisme, t'as des discriminations sur plein de sujets. Non, non, tu... Tu peux être surpris. Tu peux être surpris par les trajectoires, tu peux être surpris pour les arguments. Moi, quand je parle de politique avec mon entourage familial, mais je leur en veux pas, c'est normal. Ils me posent des questions du genre t'en penses quoi de machin? En parlant de responsables politiques. Et moi, c'est vrai que c'est une question à laquelle je sais, je réfléchis jamais à la question. En fait, j'ai pas d'opinion sur les personnes, ça m'intéresse pas beaucoup. T'en penses quoi du ministre truc là? J'en pense quoi? Je sais pas. J'ai pas d'analyse sur la personne en fait. Oh, mais je l'aime pas, je le sens pas, je le trouve trop comme ci ou pas assez comme ça. Oui, peut-être. non, excuse-moi, j'avais un peu le nez dans le budget, dans le machin, le vote sur la 49.3, le machin, l'amendement du truc. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Hein, le spécialiste, la politique, là. Ouais. Ouais, non, je sais pas, il m'inspire pas confiance. Ah bon? Enfin, d'accord, mais ça se base sur quoi la confiance pour toi? Oh, je sais pas. Non, mais il y en a aucun en fait qui m'inspire confiance. Ah bon, c'est sûr, ça aide pas. Oh, si, si, il y a un tel, je l'aime bien lui. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. Oh, compliqué, hein. C'est compliqué à sonder. J'avais quelqu'un dans ma cousine, dans ma famille qui m'avait dit non mais ouais Mélenchon je l'aime bien j'ai juste peur qu'il pète du mobilier à l'Élysée s'il est élu quoi. J'ai trouvé ça très drôle. Ouais, je vois ce que oui c'est ça c'est le côté colérique oui voilà c'est ça que je voulais dire. Ah mais ça va il est pas non plus colérique tout le temps tout le temps. Oui, non je me doute mais enfin bon c'est avec cette colère quand même enfin bon je sais pas hein. Ok, si tu veux. C'était une opinion. Et alors, mais tu sais, c'est vraiment, t'as les meilleures expressions. Ceux qui viennent des tripes, c'est des gens qui sont très éloignés de la politique. Macron. Non, mais Macron, j'ai l'impression que c'est mon banquier, ça me saoule. Je sais pas, il me fait pas rêver. J'ai l'impression que c'est un VRP en assurance habitation, là. Ah, oh, il me saoule. Avec sa tête de premier de la classe, là. C'est ma sœur qui m'a dit ça. Ok. Ok, je... Ouais, non, j'entends. Non, après non, mais j'aime bien quand même. Oui, non, bah, ok, il est jeune et dynamique. Bah, c'est sûr, en même temps, comparé aux autres, c'est sûr qu'il est jeune. Hein. Oui, ok, bah, c'est facile. Hein. Ça devient un argument. Alors oui, bah oui, on va voter pour lui parce que c'est le seul qui renouvelle un peu le bordel. Oh là là, t'as vu à quoi on en est réduit à voter pour un VRP parce que tous les autres sont des vieux de la vieille. Et sinon, Hidalgo? Ah oh, non. Pourquoi non? Je sais pas. Non, non, mais après, ouais, non, si, ouais, le vélo, c'est bien, si, quand même, ouais. Non, 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 si, c'est, ouais. Non, je sais pas, je la sens pas. Je sais. Ok. Analyse. Mais ça, vraiment, c'est, moi, c'était mon exercice préféré de faire, fait passer un entretien d'évaluation candidat par candidat. Et tu dis, bon. Poutou, non mais oui, non mais oui, Poutou, je l'aime bien. Oui, non mais d'accord, oui, Poutou, oui, je l'aime bien. Il... Ok, il y a de la conviction, il y a des tripes. Non, oui, ok, d'accord. Mais bon, voilà quoi. Bah, quoi. Non mais, enfin bon, enfin bon, on parle, enfin bon, voilà quoi. Chef d'état-major des armées, Poutou, tu vois. Ok. Nathalie Arthaud, oula, a pas l'air fun elle, hein. Quoi, tu veux quelqu'un de fun? Non, non, pas particulièrement, mais bon, quand même, Arthaud. D'accord, ok. On continue, Jadot. Mais je sais pas trop ce qu'il dit, Jadot. Je t'avoue, j'ai jamais écouté. Toi, tu l'analyses à longueur de plateau sur Backseat, Jadot, la stratégie, le personnage, le machin, le positionnement. Et tu trouves quelqu'un. Jadot? Non, mais je sais pas trop ce qu'il défend, lui. Je sais pas. Et. Non, ça me dit rien. Je. Non, si ça se trouve, il est bien. Hein. Donc voilà, moi c'est vraiment le genre de. C'est vraiment le genre de discussion que j'aime bien avant les élections avec des gens qui suivent la politique de très loin. Parce que ça me ramène, ça me force à prendre de la distance critique en disant non mais c'est vrai, c'est normal que les gens normaux, parce que moi je suis pas un mec normal, les gens normaux ils ont un rapport à la politique qui est beaucoup plus distancié que le mien et donc ils jugent à l'affect et à la perception et c'est normal, évidemment c'est normal et la majeure partie des gens font ça. C'est normal. Et la majeure partie des électeurs font ça, et c'est normal. C'est pour ça que je vous disais que Jean-Luc Mélenchon faisait une très bonne campagne présidentielle, notamment parce qu'il avait beaucoup travaillé sur son image personnelle et qu'il était devenu tout gentil. Il avait joué à fond la carte du papy rassurant, qui marche très bien. Parce que un Mélenchon souriant sur les plateaux télé, ça donne envie. Alors qu'un Mélenchon qui fronce les sourcils et qui hurle, ça fait peur à tout le monde. En tout cas, à tout un électorat qui pourrait être convaincu, mais qui ne hésite parce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, ça leur va pas, ils savent pas, etc. Donc vous voyez? Mélenchon, c'est la raison pour laquelle LFI n'est pas passé. Je trouve ça un peu raide. Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi la raison, en grande partie, pour laquelle LFI a fait un aussi bon score. Donc, tu vois, on peut aussi analyser les choses dans l'autre sens, faut faire attention. Mélenchon, c'est aussi grâce à lui que la gauche existe encore. Mollo. Mollo. Ça pose le débat un peu philosophique de l'utilité de ce genre de démocratie. Quelle utilité quand on utilise des affects et pas la cognition? Bah ça, si tu veux, c'est un sujet pour lequel le vrai débat démocratique, pour moi, ou le débat philosophique, si tu le souhaites, il est de savoir qu'est-ce qu'on estime être un bon ou un mauvais vote. Y a-t-il des votes qui sont de meilleure qualité que d'autres? Et au nom de quoi? Et qui sommes-nous pour juger? Et c'est un vrai sujet. Si on postule l'autonomie des individus et leur capacité à participer à la décision, bah, je pense que c'est important de les autoriser à participer à la décision pour les raisons qui les regardent. Et que c'est pas à moi de dire si ton vote est de qualité ou de pas qualité. Que les raisons pour lesquelles tu votes sont des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Mais je suis très 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 réticent à la qualification du vote, tu vois. Une personne qui vote pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il aime bien le personnage, versus une personne qui vote pour Valérie Pécresse parce qu'il a lu tous les programmes et qu'il a passé du temps à s'interroger profondément sur le sens de son vote, etc. Bah, il n'y en a pas un des deux qui a un meilleur vote que l'autre, en fait. C'est mon point de vue. Attention, je suis en train de vous donner mon point de vue, hein, et on peut tout à fait être en désaccord, et j'ai pas de problème avec ça. Justement, j'ai envie qu'on en discute. Mais tu votes pour tes raisons, hein. Et au bout du bout du bout, dans ton intime conviction, c'est ton vote qui compte, et ton vote, tu le fais pour tes raisons. Et ça peut être des raisons de vote utile, ça peut être des raisons de vote de conviction, ça peut être des raisons de je fais confiance à mon petit-fils parce qu'il m'a convaincu, ça peut être des raisons de je vote pour machin parce que je suis fidèle au parti, ça peut être des. Voilà, bah, il n'y a pas de meilleur vote qu'un autre. Ça peut être des raisons pourries. De mon point de vue, peut-être. Mais ça tombe bien. Puisque c'est ton vote, c'est pas le mien. Donc si c'est des bonnes raisons pour toi, bah alors c'est des bonnes raisons, point barre. Y a quand même des votes plus éclairés que d'autres. Mais qui décide du niveau d'éclaircissement? Encore une fois, je veux bien, mais de quoi on parle? Il faut être pour ou contre le nucléaire si on est intelligent? Je déconne, je déconne. Non, non, je déconne, je déconne. Commencez pas. Ouh là là. C'était une blague. Exemple historique, ma grand-mère a voté Le Pen toute sa vie alors qu'elle parlait mieux arabe que français et n'a jamais été raciste simplement parce qu'elle a été les premiers à défendre les pieds noirs d'Algérie. Oui, voilà, non, alors t'as ça aussi, évidemment, t'as des raisons culturelles, de culture personnelle et familiale, de vote, pour des raisons historiques, évidemment. Les pieds noirs, les harkis, etc. En plus, là, on parle de la mémoire personnelle, familiale qui peut être déchirante, le rapport Stora, on a très bien parlé. Évidemment. J'ai quand même un problème avec le vote troll, je pense que c'est pas une bonne raison. Ton point de vue. C'est comme si on avait la discussion de est-ce qu'un bon mani c'est quoi un bon manifestant et un mauvais manifestant? Est-ce qu'un casseur est un mauvais manifestant? Et là, en général, t'as des anarches qui débarquent dans le chat en disant « Ouais, on n'obtient jamais rien en demandant poliment, il faut casser. » Enfin, tu vois, non, mais je te redis qu'encore une fois, c'est une question de point de vue. Le bon vote, c'est pas celui qui est pareil que le mien. Si, par définition. Non, c'est marrant parce que parfois ça demande aussi une gymnastique d'esprit que d'admettre que des personnes peuvent voter de la même manière que moi, mais pour de mauvaises raisons. C'est chiant, hein. Mais c'est comme ça. On partage pas toujours son parti pris avec des personnes fréquentables. Ces cortèges de manif aussi. Ou différents du moins pour de bonnes raisons. Oui, c'est ça. Des gens qui votent pas de la même manière que moi, pour de très bonnes raisons. Enfin, bonnes. Entendu au sens de mon système de valeur de ce qu'est un bon ou un mauvais vote, tu vois. C'est devenu quoi le vote à 16 ans? Ça n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale en 2016. Ah, en 2019. Il faut quand même se poser la question de l'accès à une information de qualité et fiable. Est-ce que voter, dont on n'a pas toutes les données? Ah, je suis totalement d'accord avec toi. La liberté de la presse et le pluralisme démocratique est consubstantiel à l'idée même de démocratie. C'est encore une fois, l'histoire de la démocratie et l'histoire de l'éducation populaire est directement liée à ça, à l'accès à la formation via l'école, mais pas seulement, et l'accès à l'information tout au long de sa vie, bien sûr, évidemment. Merci Yelni. Donc ouais. Le vote à 16 ans, j'étais pour à 16 ans et maintenant j'ai 17 ans, je suis contre, voilà. Tu vois, comme quoi tu peux changer d'avis. Puis peut-être que tu rechangeras d'avis. Comment garantir une information de qualité? Ah, la bonne question. Avec des journalistes bien formés, bien payés, avec des titres de presse stables économiquement, avec un pluralisme de l'offre politique. Dans l'expression, avec un pluralisme de l'accès, un accès facilité à différentes sources, différents médiums. Avec une presse indépendante des pouvoirs économiques et politiques. Donc oui, non, bien sûr. Et c'est pareil, la qualité de l'information et la disponibilité de l'information et l'accès à l'information. Alors, il ne s'agit pas seulement d'ailleurs d'avoir accès à l'information, il faut aussi avoir une éducation aux médias, c'est important. Non, ça ne coule pas de source, la lecture des journaux, regarder la télévision, écouter la radio et suivre des streamers. Ça nécessite un apprentissage pour cultiver son esprit critique et sa distance. Et ça se fait à l'école, puis ça se fait plus tard dans la vie aussi. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se perfectionne. 5 subs!
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup. Pour les 5 subs offerts au chat, merci Boostix. Donc voilà. Donc oui, bien sûr. Merci Wiz. Merci beaucoup. Avant, je pensais que les jeunes étaient des cons immatures comme moi. Maintenant, je le pense toujours, mais je me suis rendu compte que les boomers le sont tout autant. T'es con. Non, mais je suis d'accord, y a pas plus de qualité dans le cerveau d'une personne de 18 ans et un jour que d'une personne de 17 ans et 364 jours. Si l'on en croit la fête d'anniversaire, il n'y a plus de qualité dans le cerveau, mais il y a plus d'alcool dans le sang. <C'est con. rire> Ah mon Dieu. Il est toujours en live, host ou pas? Nope. Nope, nope, nope. Est-ce qu'on fait un raid chez Dave Duf? On l'a déjà raid cette semaine. Y a Mademoiselle qui est en live. Il y a Comeback TV pour du StarCraft 2. C'est la DreamHack en ce moment. Y a Horty. Trivia. Little Big Whale. Ouais, je vais devoir y aller là. Je vais dîner avec ma maman. Horty. Ouais, du SC2. SC2? Allez. Allez. Vous allez pouvoir suivre une compétition extraordinaire, la DreamHack, où sont en train de jouer. Alors attends. Ah merde, ils sont en pause, c'est con. Ouais, mais ils vont arriver après pour la prochaine game. Vous allez pouvoir retrouver, du coup, je sais pas quel joueur c'est ce soir, c'est le Loser Bracket, donc c'est Showtime contre Spirit. Oh, Showtime Spirit. Un beau match, profitez-en bien. Hop. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream, c'était cool, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Tu vois, j'avais pas le moral au début du stream, mais maintenant ça va, j'ai le moral. Ça m'a fait vachement plaisir de discuter avec vous, c'était super sympa. Merci à vous. Demain stream, peut-être. Quoi, c'est Clem Lambeau? Oh, let's go, je vais rater ça, putain, fais chier. Il y a Clem qui joue. Merde, je vais rater le match de Clem. J'ai envie de voir le match de Clem. Mais non, mais je serai en train de dîner avec ma mère. Oh. Bon, je me démerderai. Je regarderai discrètement sur mon portable pendant le dîner. Allez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là, c'était cool. À très bientôt. Ciao, bye, salut à tous. Faites des bisous à Comeback TV de ma part. Followez leur chaîne. À bientôt, salut tout le monde.